Europe Soir Weekend, Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre grand journal jusqu'à 20h avec l'info, l'analyse, le débat d'idées. Une pensée affectueuse à Wendy Bouchard ce soir un peu souffrante, mais qui sera bien sûr là à nouveau la semaine prochaine en pleine forme. On pense bien sûr très fort à elle. Le sommaire de votre rendez-vous, 18h15, 16 départements dans le rouge et une épée de Damoclès sur beaucoup d'autres. Des mesures préventives pourraient être élargies à d'autres régions, lesquelles, je poserai la question au professeur Bruno Lina, membre du conseil scientifique à 18h15. 18h30, les grandes voix d'Europa, ce soir Bruno Jeudy de Paris Match, l'expert en communication politique Philippe Moreau-Chevrolet et la journaliste politique Laetitia Krupa. La gauche, quel avenir d'ici 2022? Et puis on va parler de la nouvelle stratégie d'Emmanuel Macron contre le Covid, clair ou pas clair? 19h15, début demain d'une semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Comment mieux lutter? Comment éduquer nos enfants? On va en parler, on va y réfléchir avec Jacques Fredge, le directeur du mémorial de la Shoah. 19h40, une chanson dans la tête avec ces textes qui ont combattu le racisme à la une, de Pierre Perret à Jean-Jacques Goldman, en passant bien sûr par... L'Aziza de Daniel Balavoine, bien sûr, 1985, les histoires musicales de Fabien Lecoeuvre à suivre sur Europe 1 ce soir. Et puis à 19h50, son cri résonne dans nos essentiels. Elle a été infirmière pendant 15 ans, Nora Sahara publie Hôpital, si les gens savaient, elle sera mon invitée en direct. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h, place à l'info. Bonsoir Fabienne Lemoyle.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Pouvoir profiter de l'extérieur tout en ayant une vie sociale et voir les gens qu'on aime bien. Ça fait du bien et on a l'impression de revivre un petit peu au lieu d'être enfermé chez soi.
Beaucoup de monde dehors ce week-end dans les 16 départements avec des mesures renforcées et aussi beaucoup de questions sur l'efficacité et la manière de respecter ce tour de vis qui nous laisse sortir dehors. Nous serons dans le jardin des Tuileries à Paris.
La maire de Paris veut qu'on débride la vaccination et donc qu'on vaccine de nouvelles catégories sans attendre. Déclaration d'Annie Lagos ce matin sur Europe 1.
Et la plus grosse astéroïde de l'année qui a frôlé il y a une heure à peine la Terre. Enfin, il est quand même passé à 2 millions de kilomètres, heureusement.
On est ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Fin de week-end semi-confiné pour les habitants de 16 départements. On l'a vu, encore beaucoup de monde qui a profité du grand air, Fabienne.
Oui, application en quelque sorte de ce que disait ce matin dans le Parisien Olivier Véran. Ce tour de vis, ce n'est pas un confinement puisqu'on peut sortir dehors pour s'aérer, pour souffler, mais en mettant de la distance pour se protéger. Alors, est-ce que les habitants des zones concernées ont bien compris le message, notamment aussi qu'il n'était pas pertinent de recevoir ses amis à la maison? C'est ce que vous êtes allé demander, Diane Berger, aux Parisiens qui profitent du jardin des Tuileries. Verdict?
Ici, il y a de relativement bons élèves, comme Irma et ses copines. Ces jeunes parisiennes ont carrément ramené une petite table, une nappe et leur bouteille de vin pour prendre leur apéro. Comme à la maison, mais en plein air.
En gardant les 1m50 et nos masques, pour pouvoir profiter de l'extérieur tout en ayant une vie sociale et voir les gens qu'on aime bien. Ça fait du bien et on a l'impression de revivre un petit peu au lieu d'être enfermé chez soi.
Un compromis qui convient très bien à ces jeunes femmes prêtes à ne plus se voir en intérieur quelques semaines. Mais dans une autre allée du parc, Nathalie a toujours rendez-vous avec des amis pour un déjeuner chez elle la semaine prochaine.
On va être 6 ou 7, quoi. C'était prévu depuis longtemps et on fait tous très attention, c'est bien aéré. Donc
elle ne voit pas pourquoi elle annulerait malgré les annonces du gouvernement. Pour Nicole, une retraitée installée dans un fauteuil en fer du parc, le problème c'est le manque de clarté des mesures des 3 derniers jours.
On est quand même assez embrouillé avec tout ça. En plus, ça change d'un jour sur l'autre, on va dire. Donc on est un peu perdu, quoi, quand même. Et puis là, je dirais que c'est pas un véritable confinement, hein.
Elle désigne du doigt les nombreuses grappes de promeneurs qui remplissent le jardin des Tuileries. Ils retrouvent quasiment tous des personnes extérieures à leur foyer.
Diane Berger, et puis alors que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait dit aujourd'hui qu'on ne pouvait pas recevoir des amis à la maison, le ministère de l'Intérieur précise bien que c'est une recommandation, pas une obligation, puisqu'on le sait, il n'y a pas de base légale pour verbaliser les gens chez eux. Et puis scène étonnante, cet après-midi à Marseille, près de 6500 personnes, vous avez bien entendu, 6500 personnes ont défilé place Jean Jaurès en plein cœur de la ville pour le carnaval, provoquant la colère de la préfète qui, dans un tweet, parle d'irresponsabilité totale pour cette manifestation non déclarée en préfecture.
Alors toute la question, c'est de savoir si ces mesures seront suffisantes pour freiner les contaminations. Il y en a eu encore 35 000 hier.
Et la tension monte dans d'autres régions, Théo Manval, avec peut-être un tour de vis à venir.
Oui, puisqu'outre les 16 départements actuellement confinés, 14 autres dépassent aujourd'hui le taux de 250 nouveaux cas pour 100 000 habitants, seuil d'alerte maximale fixé par le gouvernement. C'est notamment le cas du Var, de l'Aube, des Bouches-du-Rhône ou du Rhône. On frôle les 300 cas pour 100 000 habitants autour de Lyon, où le docteur Vincent Rébeillé-Borgella est représentant URPS des médecins libéraux.
Quand je vois l'évolution des chiffres dans le Rhône, je crois qu'on ne peut pas y échapper, si vous voulez. Je vois plus de suspicions de cas de Covid. Il y a des gens qui sont admis directement en réanimation. En fin de semaine, le nombre de places en réanimation dans le Rhône, on frôle les 90%. Donc on a très très peu de réserves. Et si jamais ça s'aggrave brutalement, ça va embouteiller complètement le système.
Et justement, cette tension en réanimation, c'est un autre des critères que surveille le gouvernement pour prendre des mesures renforcées. Et puis il faut regarder les courbes, la dynamique de l'épidémie qui s'accélère plus par endroit. C'est ce qui pousse Olivier Guérin, membre du Conseil scientifique, à demander au gouvernement d'agir vite.
Je pense à la Normandie, au Grand Est, à Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont des indicateurs eux aussi à la hausse. Et il faut vraiment qu'on ait cette capacité à agir en anticipation. Les mesures qui sont mises en place sont certainement plus efficaces lorsqu'on n'est pas à des niveaux encore trop élevés.
Anticiper donc pour le gouvernement et insister, dit-il aussi, sur la discipline de chacun. On en a parlé, ne pas recevoir de monde chez soi en intérieur. Éviter aussi les repas sans masque tous ensemble à la cantine dans les entreprises.
Théo Manval.
Et on va en reparler dans un instant puisque je recevrai Bruno Lina, membre du Conseil scientifique. Alors, s'il y a une région où la situation est presque miraculeuse, Fabienne, c'est la Guyane.
Oui, c'est le seul département de France dans le vert. Alors, comment l'expliquer ? Réponse avec le reportage d'Arnaud Béhari, correspondant en Guyane pour Europe 1.
Avec un taux d'incidence de 37 cas pour 100 000 habitants, la deuxième vague est désormais bien loin. Une situation clairement en décalage avec l'Hexagone. Explication de Clara Debord, la directrice générale de l'ARS Guyane.
Grâce aux mesures de restriction des vols, motifs impérieux, tests au départ, septaine à l'arrivée, c'est probablement cette mesure-là qui contribue à rendre nos vagues épidémiques asynchrones par rapport à celles de l'Europe.
Pour certains Guyanais, c'est plutôt le respect des mesures de restriction de circulation qui est le fruit de ces bons résultats.
La population guyanaise a quand même bien respecté les couvre-feux, le confinement et ça depuis le départ.
Nous avons clairement saisi les enjeux au niveau des gestes barrières, au niveau des mesures sanitaires à adopter dans les restaurants et dans les lieux publics. Nous avons tous envie de revenir à une vie un peu plus normale, à ne plus compter, regarder les heures pour pouvoir aller manger au restaurant en famille ou entre amis.
Les yeux sont maintenant rivés vers le pays voisin, le Brésil et son variant qui a fait son entrée en Guyane depuis un mois après le britannique. Il présente désormais 3/5 des variants qui circulent sur le territoire.
Arnaud Béhari à Cayenne pour Europe 1.
Alors la clé pour sortir de cette épidémie, c'est bien sûr la vaccination.
Et en France, un peu plus de 6 millions de personnes ont déjà reçu une première injection. Et pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, il faut clairement passer à la vitesse supérieure en ouvrant la vaccination à d'autres catégories.
Je propose qu'on débride la vaccination, que toutes celles et ceux qui veulent se faire vacciner puissent le faire. Alors, bien sûr qu'il faut vacciner les plus de 75 ans et qu'ils doivent être prioritaires, mais il faut ouvrir à tous les autres. Ceux qui travaillent dans les supermarchés, ceux qui travaillent dans nos services publics, nos agents qui font le nettoyage des rues, les policiers, ce sont ces premières lignes-là qui sont plus jeunes, qui sont actifs et qui doivent pouvoir aussi bénéficier du vaccin pour eux et puis pour nous permettre collectivement de passer cette étape qui est quand même une étape cruciale.
Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Notez que l'Allemagne se prépare à l'annonce possible d'un nouveau tour de vis demain, avec le prolongement des mesures de restriction et de fermeture en avril. L'Allemagne qui mise aussi sur la vaccination pour sortir de l'épidémie, mais le ministre allemand de la Santé dit aujourd'hui qu'une analyse honnête de la situation montre qu'il n'y a pas encore assez de vaccins en Europe pour arrêter la troisième vague par la seule vaccination.
Europe Soir Weekend.
À suivre, ça vous a peut-être échappé, mais il y a moins d'une heure, la Terre a été frôlée par le plus gros astéroïde de l'année. On vous raconte tout cela dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, Thierry Dagiral.
18h09 à l'écoute d'Europe 1 avec la suite du journal de Fabienne Lemoyne. C'était il y a une heure à peine, ça vous a peut-être échappé, mais la Terre a été frôlée par un énorme astéroïde.
Nom de code 2001F032, il a frôlé la Terre, Laura Taouchanoff, mais heureusement pour nous, d'assez loin.
Oui, très loin, c'est le moins que l'on puisse dire, Fabienne. 2 millions de kilomètres très exactement, soit 5 fois la distance Terre-Lune. Mais sur l'échelle cosmique, c'est très près. Alors, pas besoin d'un matériel professionnel, un télescope amateur suffit. Surtout si vous attendez la tombée de la nuit, explique Alain Doresoun-Diram, astrophysicien à l'Observatoire de Paris.
Ça va quand même aller assez vite. Avec un télescope, on le voit passer. Quelques heures après, il sera un peu plus loin. Ce qu'on va voir, c'est un point lumineux, mais plutôt brillant. Rien qu'avec la lumière que l'on a, on peut déterminer la taille exacte. Donc c'est important pour le danger de collision. Et puis déterminer aussi sa composition, s'il est poreux, s'il est métallique par exemple. Voilà.
Alors ce rocher géant mesure près d'un kilomètre de diamètre. C'est le plus gros de l'année. Et si un tel astéroïde entrait en collision avec la Terre, les effets seraient catastrophiques. Mais pas de panique, celui-ci ne représente pas de menace, nous rassure l'astrophysicien au Centre National d'Études Spatiales Francis Rocard.
Il va partir vers le sud du système solaire pendant plusieurs années, le temps de faire son ellipse et ensuite il reviendra, mais la Terre aura bougé. La prochaine rencontre proche avec la Terre est prévue dans les années 2050, donc la probabilité d'impact avec la Terre est rigoureusement égale à zéro.
Et sachez qu'il y a plus de 800 000 astéroïdes recensés actuellement, mais aucune collision avec la Terre prévue pour le prochain siècle.
Merci de nous rassurer, Laura Tchanoff.
Fabienne, on termine avec une initiative originale pour lutter contre la pollution en milieu aquatique en retenant nos déchets sur Terre.
Et ça se passe à Mandelieu-la-Napoule, qui vient de s'équiper de filets anti-plastique et anti-mégots, une technologie développée par une entreprise locale qui a planché sur le dispositif pendant 2 ans. Reportage Frédéric Michel.
Aujourd'hui, on veut tout arrêter. De la bouteille à la paillette.
Des centaines d'objets en plastique, des bouteilles, des emballages emprisonnés dans un filet à grosse maille, des billes de polystyrène ou des mégots prisonniers d'un sac plus petit aux coutures plus fines. Ces dispositifs équipent déjà des villes comme Reims, Lyon ou Paris. Mais l'ambition à Mandelieu, c'est de constituer avec ces filets un vaste réseau de collecte de micro et macro déchets. Stéphane Isiglian dirige la société Polustock qui a développé cette innovation.
Chaque filet va être sur mesure. Du filet qui va pouvoir s'installer sur un réseau d'eau. Donc là, ça va être des filets de très très grande capacité à haute résistance. Et après, des filets qui vont permettre une action beaucoup plus ciblée.
Comme ces filets installés sur des plages pour récolter les mégots de cigarettes ou ces filets placés sous des dispositifs de collecte d'eau dans les centres-villes ou ailleurs. Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la-Napoule.
Aujourd'hui, la mer est polluée à 90% par tous les déchets qui sont jetés sur la voie publique. Quand vous savez qu'un mégot pollue à lui seul 800 litres d'eau de mer, imaginez la pollution que vous évitez en interceptant plusieurs milliers, c'est ce qu'on a fait. Si on n'agit pas, bientôt il sera trop tard.
Et pour sensibiliser la population, ces filets et leur contenu sont parfaitement visibles.
Frédéric Michel à Mandelieu, la Napoule pour Europe 1.
Merci beaucoup Fabienne Lemoyle, belle semaine à vous. Rendez-vous le week-end prochain.
Avec plaisir.
La météo Valérie Darmon. Demain Valérie, les températures ne vont pas remonter. Hein.
Et oui, il fait toujours frais pour la saison. Les températures, ce lundi matin, restent encore bien froides avec moins 3 à 1 degré dans le Grand Est, 0 à 4 ailleurs, jusqu'à 6 sur le littoral atlantique, 9 en Roussillon. Les maximales vont grimper entre 7 et 10 degrés dans l'Est, 9 à 15 ailleurs et 17 près de la Méditerranée. Sur la moitié nord de la France, le ciel va être variable. Les nuages bas sont majoritaires, mais on espère quelques éclaircies plus généreuses vers la Bretagne, les Pays de la Loire et les Charentes. Au sud, le temps est variable aussi, avec des éclaircies qui se partagent le ciel entre nuages et quelques moments ensoleillés. Les petites ondées matinales persistent entre le Massif central et Rhône-Alpes. Du Roussillon à PACA, le soleil s'impose toujours grâce à un Mistral et à une tramontane à 90 km/h. Les températures de ce lundi qui remontent très très mollement et qui vont afficher pour les maximales des valeurs entre 6 à Épinal et 17 à Montpellier. À Paris, il fera 11.
Merci Valérie, à tout à l'heure. Et voici le journal des sports avec Jean-François Pérez. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
On démarre avec le foot et la fin de la 30e journée de la Ligue 1.
Oui, c'est d'abord Lens qui s'est imposé à Strasbourg 2-1. 9e match sans défaite pour les Lensois, solide 5e du championnat. Les résultats des matchs de 15h, Nantes-Lorient 1-1, les Nantais qui sont toujours barragistes. Montpellier qui domine Bordeaux 3-1, 0-0 entre Brest et Angers. Enfin Reims s'impose à Dijon 1-0, les Dijonais qui sont quasiment en Ligue 2, 10e défaite d'affilée, c'est un record. Et puis un match en direct, c'est le leader Lille qui accueille l'avant-dernier Nîmes. On pourrait croire que ce match serait déséquilibré sous les yeux de Sébastien Boé. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
C'est déséquilibré, mais pas dans le sens qu'on l'imaginait.
Exactement, puisque les Nîmois créent la surprise pour le moment. Ils mènent 2-1 ici au stade Pierre-Mauroy. Des Nîmois qui ont ouvert le score dès la 12e minute. Un but magnifique de Moussa Koné, une frappe enroulée à l'entrée de la surface de réparation. L'égalisation lilloise est arrivée très vite, 8 minutes plus tard, à la 20e. Une tête piquée de Cheka suite à un corner. Et puis le deuxième but des Gardois en contre à la 45e avec à l'origine une superbe passe de Ferrat pour Ipar qui tient. Petit ballon piqué, trompe MacMaignan, le but est magnifique et punit une équipe du LOSC, on va dire fébrile défensivement et très décevante cet après-midi. Le leader nordiste n'y est pas, à court de solutions, pas d'idées, pas d'imagination, manque de tranchant face au 19e de Ligue 1, 19e surprenant, 52 minutes de jeu ici au Stade Pierre-Mauroy et donc 2-1 pour les Nîmois.
Et dans le jargon du foot, on dira que les crocos mangent les dogs pour l'instant. Le résultat, dans une heure. Merci Sébastien.
Jean-François, ce soir, le choc bien sûr, Lyon-PSG.
Oui, les Lyonnais, les Parisiens qui sont à touche-touche hein, au classement. Deuxième ouais. Ex-aequo, 60 points à 3 points de Lille, mais qui fait pour l'instant une mauvaise affaire. Hein. Match crucial donc pour la suite et la fin de la saison. Le PSG qui est plutôt décevant cette saison sur les grands rendez-vous en Ligue 1. Écoutez le milieu de terrain Marco Verratti, on est parfaitement conscient.
Oui, c'est vrai, cette année on a eu un peu de difficultés avec les grandes équipes, on n'a pas ramené beaucoup de points et ça c'est très important pour le championnat quand on gagne les confrontations directes. C'est pour ça c'est une chose en plus. On sait que la chose plus importante, bien sûr, c'est les 3 points, c'est de faire un joli match. On joue contre une bonne équipe, ils sont en train de faire un très bon championnat avec des bons joueurs. C'est pour ça que ça va être un match très intéressant, un match qu'on a envie de jouer.
Voilà l'accent ensoleillé de Marco Verratti avec Julien Froment qui sera ce soir à Lyon pour commenter cette OL-PSG en compagnie de Pascal Auclert.
Et puis un invité exceptionnel sur Europe 1 demain matin.
Raphaël Varane, le défenseur des Bleus, champion du monde, pilier du Real, vainqueur de 4 Ligues des Champions, une énorme personnalité du foot international qui se livre sur Europe 1 dans le face-à-face avec Mathieu Béliard. Il parlera notamment du PSG et de Kylian Mbappé, annoncé depuis longtemps au Real d'ailleurs. Peut-il viser bientôt le Ballon d'Or, Kylian Mbappé ? La réponse de Raphaël Varane.
Ben pourquoi pas ? Je pense qu'il a le potentiel, il a l'ambition aussi. Kylian fait partie des très grands joueurs, il est encore jeune, mais il a déjà énormément progressé, il continue d'évoluer, il devient de plus en plus complet, et puis ça reste un buteur. Donc c'est tout le mal que je lui souhaite. Hein.
Voilà, Raphaël Varane, invité exceptionnel d'Europe 1 demain matin, 7h40, parole rare hein, pour l'un des plus beaux palmarès du foot français.
Rien de pas raté donc. Le reste de l'actualité sportive en bref.
Oui, je vous donne un petit mot de biathlon pour terminer. La fin de saison en apothéose pour le français Simon Destieux, vainqueur de la dernière mass start de la Coupe du Monde à Östersund. C'est Johannes Bø, le Norvégien, la superstar de la discipline, qui soulève le gros globe de vainqueur de toute la saison pour la 3e fois d'affilée.
C'était le journal des sports signé Jean-François Pérez. Merci beaucoup Jean-François.
Soir week-end.
Alors on l'a dit, hein, 16 départements touchés par les nouvelles mesures à cause d'une poussée de l'épidémie. D'autres régions risquent de basculer. Lesquelles ? Quels sont les indices, les chiffres qu'il faut regarder ? Je pose toutes ces questions dans un instant à mon invité, le professeur Bruno Lina, virologue aux Hospices Civils de Lyon et membre du Conseil scientifique. A tout de suite.
Europe 1, Thierry Dagiral.
À 18h19, l'interview du dimanche soir sur Europe 1. 16 départements touchés donc par ces nouvelles mesures depuis ce week-end. D'autres régions pourraient être concernées dès la semaine prochaine. Avec nous ce soir en direct, Bruno Lina, professeur de virologie aux Hospices Civils de Lyon et membre du Conseil scientifique. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Merci infiniment d'être avec nous ce soir. On peut parler d'épée de Damoclès sur plusieurs régions de France ce soir. Et lesquelles ?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dynamique épidémique en cours qui est liée notamment à la circulation plus importante du variant britannique qui entraîne une augmentation des risques de transmission. Donc on voit qu'on a une augmentation du nombre de cas partout en France, mais on l'observe aussi partout en Europe. Et de fait, ça nous met dans une situation un petit peu plus fragile par rapport à l'équilibre dans lequel on était arrivé. Et effectivement, aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'on appelle les taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes infectées par niveau de population, eh bien, partout en France, ça augmente. Donc, il y a une certaine épée de Damoclès, effectivement.
On en parlait dans le journal de 18h à l'instant. Il y a certaines régions qui sont particulièrement visées. Je pense à la région que vous connaissez bien, celle de Lyon.
Oui, mais de toute façon, c'est très mathématique. Hein. C'est-à-dire que ça fait partie des départements où le taux d'incidence est le plus élevé. Donc on sait qu'il y a eu un seuil de déclenchement qui s'est fait à un certain niveau. Alors on n'y est pas encore, mais si la dynamique de l'épidémie reste sur le rythme qu'elle a, eh bien on risque de se retrouver à court terme dans des niveaux de circulation qui imposera des actions supplémentaires.
Et quelles sont les cibles justement? Quelles sont les régions concernées? Lyon, le Var, il y a d'autres départements, d'autres secteurs?
Oui, alors c'est essentiellement des départements qui sont... Il y a un gradient ouest-est. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les départements de l'Est sont plus touchés que les départements de l'Ouest. Hein. Quand vous regardez c'est les courbes d'incidence, elles sont pas tout à fait au même niveau en fonction de la région. Il y a aussi un gradient nord-sud avec peut-être aussi une circulation un peu plus importante sur le périmètre méditerranéen. Mais il y a plusieurs départements, j'ai pas la liste exhaustive en tête, mais il y en a aussi en Bourgogne-Franche-Comté, il y en a aussi dans le Grand Est. Donc on voit que globalement, de façon assez systématique, premièrement, il y a une augmentation du nombre de cas. Deuxièmement, certains départements sont au-dessus de 250 cas pour 100 000, ce qui est un seuil et qui doit se lire aussi à la lumière de ce que l'on voit par rapport au rythme des hospitalisations et le taux d'utilisation des lits en réanimation. Et c'est ça qui doit être l'élément déclencheur d'action additionnelle.
Mais vous nous dites clairement, professeur, ce soir, que d'autres régions vont être touchées, donc inévitablement.
Alors, inévitablement, c'est toujours pareil, c'est très difficile de vous donner à la fois un calendrier et
bien
puis des échéances. Hein.
Bien sûr.
Mais en tout état de cause, si dans ces régions-là, dans ces départements-là, dans ces villes-là, il n'y a pas une certaine prise de conscience de la part de l'ensemble de la population qui est de dire, on a eu un peu de laisser-aller. Alors, il y a des mesures qui sont prises par tout le monde. On voit à quel point le port du masque se fait, on voit à quel point il y a beaucoup de gens qui respectent quand même des mesures d'hygiène et mesures de distanciation. Mais malgré tout, c'est pas suffisant parce que ce variant britannique a changé la jauge. On est avec un niveau d'exigence sur l'utilisation de ces méthodes qui ont réussi à freiner de façon assez performante les anciens lignages. Aujourd'hui, elles ne sont pas suffisantes. Il faut les renforcer. Et on voit, enfin bon, de temps en temps, on voit des groupes de personnes sans masque, on voit des comportements un petit peu d'attroupement dans certaines situations. Et ça crée des situations à risque qui est un risque collectif. Et il faudrait juste arriver à enclencher cette méthode supplémentaire pour pouvoir se protéger tous.
Professeur Lina, justement, je voulais vous faire réagir. On en parlait dans le journal de 18h. Ces images ubuesque d'un carnaval sauvage à Marseille, 6500 personnes dans les rues de Marseille, sur la Canebière, sans masque pour certaines. Vous dites quoi? Elles vous inspirent quoi ce soir, ces images?
De l'incompréhension. De l'incompréhension parce que tout le monde veut sortir de cette pandémie, de cette crise sanitaire. On voit à quel point ça pèse sur tout le monde et le poids est considérable. Mais là, on a l'impression que finalement, on se donne le bâton pour se rebattre.
Bien sûr.
Parce que c'est typiquement ce genre de réunions qui vont entretenir l'épidémie, qui vont entraîner une augmentation du nombre de cas et qui vont faire que cette crise sanitaire va durer plus longtemps. Donc, si on veut être cohérent avec soi-même, faisons un effort. Et là, pour le coup, cette troisième phase de circulation du virus, on a de très bonnes chances pour que ce soit la dernière qui nous impacte à ce point-là. Donc, essayons de la gérer de façon à l'amortir au maximum, de façon à ce qu'on sorte très vite de cette crise.
Bruno Lina, en direct ce soir sur Europe 1, membre du Conseil scientifique. Ce confinement ouvert, comme le dit l'exécutif, c'était la bonne stratégie, c'était l'unique stratégie selon vous?
C'est une stratégie qui est axé sur une donnée, une donnée qui a été retrouvée dans une étude qui a été publiée récemment, qui s'appelle ComCor, qui montre que
le virus circule moins lorsqu'on se fait moins à l'extérieur.
Se transmettent moins à l'extérieur, mais malgré tout, je vous parle de comportement, hein, quand on dit se transmet moins, ça ne veut pas dire que ça ne se transmet pas, et il y a aussi le fait qu'on a identifié des espaces où cette transmission se fait plus qu'avant, et en particulier dans le périmètre familial, il y a des repas avec trop de monde, sans précaution. Il y a aussi dans le domaine professionnel, aujourd'hui, une baisse de la vigilance avec des chaînes de transmission qu'on observe clairement dans des entreprises où le télétravail n'est pas assez utilisé. Donc c'est ça les leviers. On se rend compte que finalement, les transmissions, elles se font aujourd'hui beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et un choix a été fait par l'exécutif, que je ne commenterai pas, qui a été de s'orienter plus là-dessus que sur le reste. Donc, est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. On va voir. Est-ce que on va pouvoir essayer de décliner cette stratégie, même en dehors du signal du confinement tel qu'il est décrit, peut-être que ça peut être bien de le faire par anticipation dans les autres régions.
Bruno, on voit bien aussi que le ministre Blanquer ne veut surtout pas fermer les écoles. L'Institut Pasteur dit pourtant que la contagion viendrait des collégiens, des lycéens. C'est pas une aberration, c'est pas une vraie question finalement.
Non, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est une approche globalisée. C'est-à-dire que vis-à-vis des écoles, des collèges et des lycées, on est en train de mettre en place un système qui devrait être un système de surveillance permettant justement d'identifier les collégiens, les lycéens ou les scolaires qui seraient contaminés. Vous savez que on a beaucoup travaillé sur les prélèvements salivaires. L'idée est de monter des stratégies de prélèvement itératif, simples à réaliser, non traumatisants, qui permettraient de façon sensible d'identifier les élèves qui seraient infectés, de façon à les sortir du circuit. La deuxième chose, on sait à quel point la scolarisation des élèves est fondamentale pour le long terme. Donc, à tout prix, on a toujours dit qu'il était nécessaire de maintenir les écoles ouvertes et que le niveau de transmission dans les écoles est probablement très en dessous de ce que l'on observe dans certaines entreprises. Donc, y a une logique à essayer de laisser les écoles ouvertes et les lycées et les collèges. Il y a un travail à faire sur les universités aussi. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des chaînes de transmission qui s'installent dans ces établissements. Il faut qu'on lutte pour éviter qu'elles se dispersent. Et de nouveau, c'est un effort collectif où il faut que chacun aille se faire tester à partir du moment où il a des symptômes, mais surtout qu'il ne vienne pas lorsqu'il sait qu'il est malade en attendant le résultat. Parce qu'il y a encore un bon nombre d'infections qui sont documentées à partir de personnes qui disent « Ah oui, j'ai fait faire le test, mais je viens travailler quand même parce que j'ai pas le résultat. » Et bien, ça, c'est pas logique. Ça, il faut pas le faire.
Une toute dernière question, professeur. Vous êtes pour une vaccination massive. On entendait Anne Hidalgo, qui était l'invitée d'Europe 1 ce matin, dire « Voilà, il faut vraiment passer à cette vaccination massive. » C'est la seule issue aujourd'hui pour passer un été tranquille?
L'immunisation par la vaccination est ce qui va nous permettre de sortir plus rapidement de cette crise sanitaire. C'est très clair. On a besoin d'avoir un taux de vaccination élevé pour que derrière, l'immunité collective que l'on aura à la fois par la vaccination et les personnes qui auront guéri de l'infection Covid, eh bien, nous protège tous, puisqu'on sait qu'au-delà de 60 à 70%, à ce moment-là, le virus aura beaucoup plus de mal à circuler et donc on sera dans une logique de décroissance du nombre de cas. Et le R0 sera systématiquement inférieur à 1. C'est vers ça qu'il faut tendre. Après, ça, on peut pas faire de l'incantation avec des vœux pieux, parce que il faut qu'on ait les vaccins pour faire ça. Mais il est clair que toute personne qui est susceptible de se faire vacciner devrait y aller, et le plus rapidement possible.
Toujours très clair, le professeur Bruno Lina, ce soir en direct sur Europe 1, membre du Conseil scientifique. Grand merci à vous, professeur. Merci.
Europe Soir Weekend.
Restez avec nous dans deux minutes sur Europe 1, l'essentiel de l'info et le débat des grandes voix d'Europe 1. La nouvelle stratégie d'Emmanuel Macron contre le Covid, on va en reparler. Convaincante ou pas? On en parle dans un instant. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Thierry Dagiral.
Et à 18h30, le débat des grandes voix du dimanche dans un instant. Mais d'abord, le fil info avec vous, Sophie Tussaud.
Peut-on recevoir des invités chez soi? Non, a déclaré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui insiste sur la logique du chacun chez soi ou bien dehors. Temporisation du ministère de l'Intérieur qui réaffirme qu'il s'agit d'une recommandation. Gabriel Attal qui par ailleurs prévient les entreprises qui ne joueront pas le jeu du télétravail. Elles seront sanctionnées. Les contrôles vont être renforcés. Anne Hidalgo veut débrider la vaccination. Sur Europe 1, la maire de Paris a souhaité qu'elle puisse être ouverte à tous ceux qui le souhaitent. L'exécutif, de son côté, pointe le nombre de doses pour l'heure insuffisant. Carnaval sauvage cet après-midi à Marseille. 6 500 personnes ont défilé entre la Plaine et la Canebière. Un événement non autorisé par la préfecture qui dénonce l'irresponsabilité des participants en pleine pandémie. Le ton monte entre Londres et Bruxelles sur le vaccin AstraZeneca, alors que la Commission européenne menace le laboratoire de bloquer ses exportations s'il n'honore pas son son contrat avec l'Europe. Le Royaume-Uni prévient qu'une telle action serait contre-productive. L'Allemagne s'apprête à un nouveau serrage de vis. Le pays traverse une nouvelle vague de contamination. Angela Merkel envisage de prolonger le mois prochain les restrictions sanitaires actuellement en place. Les nouvelles mesures seront discutées demain. Et puis un gros astéroïde a frôlé la Terre tout à l'heure, vers 17h, à 124 000 km à l'heure. Il est le plus gros à s'approcher aussi près de nous cette année, 2 millions de kilomètres.
Merci Sophie, vous revenez à 19h pour le journal complet. La météo, Valérie Darmon. Valérie, quel temps pour cette semaine ?
Eh bien, de plus en plus de soleil au fil des jours. Et ce lundi encore, les nuages bas s'imposeront sur une large moitié nord de la France. Le soleil brillera plus facilement ailleurs. Les gelées seront toujours très fréquentes au lever du jour. Mardi, l'amélioration amorcée donc lundi sur le sud s'étendra aux trois quarts de la France. Seul un petit tiers nord sera toujours dans les nuages. Le temps sera sec tout de même partout. Et le radoucissement persiste. Mercredi, journée de transition, la plus belle journée de la semaine. Belles éclaircies après la dissipation des grisailles du matin sur l'ensemble du pays et après la fraîcheur matinale et de nombreuses gelées toujours sur le centre et dans l'est. L'atmosphère va se radoucir, les températures revenir dans les normales. Jeudi et vendredi, la météo se dégrade. L'ouest et le nord de la France retrouvent les nuages, un petit peu de pluie. Les régions de l'est et du sud restent à l'écart de cette dégradation, malgré l'apparition des entrées maritimes près de la Méditerranée. Et les maximales oscilleront entre 9 et 12 degrés lundi et entre 15 et 18 en milieu et fin de semaine. Et la douceur va persister jusqu'au week-end prochain, mais le week-end sera instable.
Ah, merci Valérie Darmon, à tout à l'heure.
Europe Soir Weekend.
Allez, dans deux minutes, on va parler de la nouvelle stratégie d'Emmanuel Macron, mais qui provoque la colère, l'incompréhension des territoires, des élus locaux, de certains élus locaux. Et puis on va parler de la gauche, esprit de gauche. Es-tu là? Mais où? À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Thierry Dagiral. Les grandes voix.
18h35 sur Europe 1 ce dimanche soir. Voici votre rendez-vous du week-end, les grandes voix d'Europe 1. On en débat et on reste à débattre jusqu'à 19h avec nous ce soir. Laetitia Krupa, journaliste politique, bonsoir.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Philippe Moreau-Chevrolet, professeur Sciences Po, spécialiste de la communication politique, bonsoir Philippe.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Et Bruno Jeudy, éditorialiste et rédacteur en chef à Paris Mat. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Thierry.
Alors elle était ce matin sur Europe 1 dans le grand rendez-vous. Le pas de plus d'Anne Hidalgo vers la présidentielle, est-ce crédible? Que peut faire la gauche? Et François Hollande et Manuel Valls qui sont en embuscade, on en parle tout à l'heure.
Les grandes voix.
Mais d'abord on va revenir, madame, monsieur, sur ce week-end, sur cette stratégie compliquée, nouvelle, surprenante d'Emmanuel Macron, confinement non confiné, couac d'attestation. Bruno Jeudy, c'est le grand flou un peu quand même, non ?
Oui, c'est le grand flou et en même temps, c'est assez difficile qu'il en soit autrement. Pourquoi ? Ouais. Parce que Emmanuel Macron avait pris une décision le 29 janvier qui était de ne pas reconfiner. Lui-même avait dit à l'automne en dernier qu'il ne reconfinerait pas une troisième fois. Et on voit bien que là, la marée montante en Ile-de-France, la situation des soignants l'ont contraint à prendre cette décision qui, dans son esprit, et Jean Castex l'a répété, n'est pas un reconfinement. Et peut-être a-t-il raison, parce que le plus dur, espérons-le, n'est pas à venir. Mais on ne l'écarte pas à l'Élysée. Il y a 3-4 départements qui sont dans une situation quasiment en situation d'être reconfinés. Le Calvados, l'Eure, l'Aube, on va pas faire perdre le moral aux habitants de ces départements, mais la situation est difficile. Et je le disais hier soir ici même, aujourd'hui, le Sud-Ouest n'est plus épargné. La progression est très forte. Alors, elle reste basse par rapport à l'Île-de-France, mais elle est très forte. Donc, à force de, j'allais dire, confiné par appartement, peut-être que c'est toute la maison qui va finir par être reconfinée.
Philippe Moreau-Chevrolet, quelle communication quand même assez, quel week-end de communication politique assez étrange quand même.
Oui, parce que comme le soulignait Bruno, le gouvernement est un petit peu coincé. C'est-à-dire que comme la décision avait été prise de ne pas faire de confinement préventif parce que c'est trop difficile à faire comprendre à la population, tant que la situation n'est pas grave, au fond, leur dire à la population de se protéger d'une façon extrême, c'est pas forcément très très acceptable. Disons. Ouais. Donc le pari entre guillemets qui avait été fait, c'était d'attendre. Là, on est effectivement coincé et il n'y a plus beaucoup d'options à part un durcissement progressif de la situation, parce qu'on voit bien que les chiffres sont très élevés et que la situation dans les hôpitaux explose. Donc c'est en matière de communication. Malheureusement, le seul message à faire passer, c'est celui qu'on fait passer depuis des semaines, c'est-à-dire que la situation est grave, mais comme ça fait longtemps qu'on le dit, ça s'use un petit peu. Et l'attestation, c'est un petit peu la goutte d'eau pour les gens. C'est-à-dire qu'au fond, ils se demandent pourquoi on vient en plus chercher quelque part à pas les ennuyer. Bien sûr, c'est pas fait pour ça, mais ça les met encore plus en situation de quelque part d'infantilisation, et ça devient un peu insupportable pour la population, malheureusement.
Laetitia Krupa, il a suffi de se promener un peu partout aujourd'hui dans les rues. On voit bien que les gens sont dehors, sont regroupés. On a vu les images hallucinantes à Marseille sur la Canebière, là, de ce carnaval avec 6500 personnes. Certains n'ont pas les masques. Bon, c'est tout ça est assez hallucinant, non?
Oui, on continuera à voir aussi, je vous rassure Thierry, les fêtes clandestines, les restaurants clandestins, ça existe depuis le début de la pandémie. Il y a toujours une poignée qu'on espère peu nombreux à ne pas vouloir respecter les consignes sanitaires. En fait, tout l'enjeu pour un gouvernement en crise sanitaire, c'est de faire respecter les consignes qui permettent de sauver des vies. Je rappelle que quand même, ces consignes ne sont pas là faites pour être considérées comme liberticides, bien qu'on a bien compris que notre quotidien soit empiété, mais c'est pour sauver des vies. Et je crois qu'on a oublié cet objectif premier. Alors, si les gens ne respectent pas ces consignes, il y a une autre option, peut-être ouvrir davantage de lits. Parce que le gouvernement a beau être face à ce questionnement, je sais que Jean Castex l'a été, notamment Bruno Jeudy lui a posé la question cette semaine, et quand même, cette réponse de l'exécutif reste, à mon avis, très flou. Ouais. Voilà, c'est aussi une possibilité de sortie. Je suis désolée si on n'arrive pas
à faire respecter les consignes. Mais pour ouvrir des lits, il faut des soignants, il n'y en a pas de soignants, donc...
Écoutez, c'est possible peut-être de faire venir des soignants d'autre part. Enfin, je veux dire, il y a énormément de possibilités. Le Val-de-Grâce a été fermé. Enfin, on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, je trouve que la réponse de l'exécutif est molle sur cette question. Et je vous assure qu'elle sera au cœur de 2022. On va en parler tout à l'heure. Mais cette question de l'hôpital qui est embolisée va être au cœur de 2022.
Bruno, je voudrais qu'on raconte un petit peu maintenant ce qui s'est passé cette semaine, les coulisses de cette décision, les lignes finalement qui s'affrontent au sein du gouvernement. Comment on en est arrivé là?
C'était un peu le match retour du 29 janvier. Le 29 janvier, c'est le fameux moment, Philippe en parlait tout à l'heure, où le président refuse le confinement préventif. Et à l'époque, il y avait déjà ces deux lignes. Ouais. En gros, pour faire simple, la ligne défendue par Jean Castex et Olivier Véran. Castex, issu de l'administration de la santé, il a été directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans le Var, il y a de longues années. Olivier Véran, médecin de formation, et tous les deux sur une ligne, j'allais dire, enfermiste. C'est comme ça que souvent on présente les choses à l'Élysée. Ouais. Et puis en face, une ligne avec plutôt Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer, qui eux étaient sur une ligne de non-confinement, en tous les cas, aller attendre le plus possible. Et c'est cette ligne qui l'avait emporté le 29 janvier avec un arbitrage du président de la République. Cette fois-ci, outre les chiffres, le président a fini par se laisser convaincre avec cette solution qui est une solution hybride, on le voit encore, c'est pas tout à fait un confinement, c'est pas non plus uniquement un couvre-feu. Il s'est laissé convaincre, je crois, aussi pour une raison qui sans doute l'a emporté. C'est le ras-le-bol. Finalement, il est allé toucher du doigt à Poissy, à l'hôpital de Poissy. Il a vu les soignants, il a vu leurs difficultés et le fait que un hôpital saturé. Il avait toujours dit, je ne prendrai pas le risque de la saturation des hôpitaux et des services de réanimation. Hélas, on y est en Île-de-France.
Philippe Moreau-Chevrolet, Laetitia Krupa, il y a vraiment des lignes qui s'affrontent. Il y a une bagarre au sein de ce gouvernement.
Entre oui, il y a des lignes. Alors,
oui,
c'est pas, c'est pas. Pardon, Laetitia, allez-y.
Allez-y, Laetitia.
Oui, bah comme l'a dit Bruno, on la connaît cette ligne puisqu'elle a été révélée dans la presse très tôt. Donc oui, évidemment, mais ça se comprend puisque la balance, je vous cache pas et vous le savez comme moi, qu'il y a deux côtés. Donc évidemment, depuis le début de cette crise, il y a quand même d'un côté le sanitaire et encore une fois, je crois que tous les Français sont d'accord pour sauver des vies. C'est pas la question, mais il y a l'autre, voilà le coût de toutes les mesures prises depuis le départ, depuis un an, le coût social, le coût économique, le coût psychologique, le coût, alors le quoi qu'il en coûte, cette doctrine du départ, elle a laissé la place à la doctrine vivre avec le virus. Mmh. Emmanuel Macron l'a répété encore cette semaine. Donc c'est vraiment ce passage-là qu'il va falloir négocier et on est en plein en train de le négocier.
Ouais. Justement, en fait, allez-y Philippe.
Pardon.
Allez-y.
Il y a trois lignes, en fait, qui sont résumées dans le dernier avis du Conseil scientifique. Et bon, en fait, pour comprendre ce qui se passe au sein du gouvernement, il faut lire l'avis du Conseil scientifique. C'est qui fait très bien son travail, le Conseil scientifique. C'est sur le site ducotédelascience.org que ça a été publié. Et en gros, il y a trois lignes. Il y a une ligne qui est « on laisse faire ». On laisse complètement, on ouvre les portes. Il y a une ligne stop and go. C'est un petit peu ce qu'on fait là. C'est-à-dire, on redémarre, on arrête, on redémarre. Et ça, sur le long terme, c'est dévastateur en termes psychologiques. Mmh. Mais sur le court terme, ça permet de pas trop perdre la population. Donc, c'est des arbitrages D'accord. compliqués. Puis, ouais. la troisième stratégie, c'est le zéro Covid. C'est, on ferme tout pendant 4 semaines, mais au moins, on réduit le nombre. Et puis après, on trace, on ferme aux frontières absolument. Et on est sérieux dans la gestion de l'épidémie.
Avant de marquer une pause, je voudrais qu'on évoque quand même une chose importante. Il y a une colère, une incompréhension de la part des élus locaux. Je pense à Éric Ciotti, même le maire du Havre, ancien Premier ministre Édouard Philippe, n'est pas vraiment content de ce choix présidentiel. Bruno, je dis, certains parlent de Paris perdu d'Emmanuel Macron.
Ben, formellement, oui, c'est un pari perdu parce qu'il y avait une course, il a engagé une course contre la montre, il a espéré que la campagne de vaccination montrait suffisamment rapidement en puissance pour contrer la montée du virus, dont on savait que le variant était là, et puis ben, le variant, il est allé plus vite que la campagne de vaccination, je résume à grands traits, hein. et il a été rattrapé peut-être à 15 jours, 3 semaines. Voilà, ce pari est perdu si jamais c'était un pari. Un pari, c'est quand même un drôle de mot pour une question de santé. Alors évidemment, les oppositions s'engouffrent dans cette brèche.
Exactement, c'est ça. Il a réveillé les oppositions. Christian
moi, je
Jacob
trouve que globalement, les oppositions elles font leur boulot, mais elles sont peu audibles. En revanche, les élus locaux, je dirais pas tout à fait la même chose. Ouais. Je pense que le pouvoir alterne le bon et le mauvais discours avec les élus locaux.
Ça, c'est intéressant.
Il ne peut pas faire sans eux. Ouais. Et quand il ne s'appuie pas sur eux, c'est encore pire.
Laetitia Krupa. Quand on entend Christian Jacob ce matin dire « Macron est un chef de guerre défaillant, président des LR », mais en effet, cette fronde des élus locaux, elle est intéressante à suivre.
Oui, mais ça, c'est la parole de Christian Jacob. Quand vous écoutez Anne Hidalgo, elle dit pour la première fois « Oui, c'est vrai, l'attitude du gouvernement a changé vis-à-vis de nous et nous sommes davantage consultés ». Donc, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Vous avez bien vu jeudi comme cette période, là, cette phase, cette séquence de négociation a été mise en scène. Et puis encore aujourd'hui, dans la presse, quand vous voyez la presse, l'exécutif raconte que c'est après ces entrevues, ces négociations, c'est pour parler qu'Emmanuel Macron aurait pris finalement sa décision. Donc, évidemment qu'on a rectifié le tir et que désormais, les élus locaux font partie prenante de la décision parce que sinon, ce n'est pas possible. Thierry, encore une fois, on a un problème de respect des ordres donnés et des recommandations données par le gouvernement. Si on enjambe les élus locaux, on ne peut pas toucher les populations. Ce n'est pas possible.
Allez, vous restez avec nous. Il est 18h46 sur Europe 1. La suite de votre débat des grandes voix ce soir, dans un instant, on va parler de la gauche. Anne Hidalgo était ce matin sur Europe 1. François Hollande, Manuel Valls sont en embuscade. Mais que peut faire la gauche en 2022? Vaste question. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend. Thierry Dagiral, les grandes voix.
Et voici la deuxième partie de votre débat des grandes voix ce soir avec Laetitia Krupa, journaliste politique, Philippe Moreau-Chevrelet, prof à Sciences Po, spécialiste de la communication politique, et Bruno Jeudy, éditorialiste et rédacteur en chef à Paris Match. Vous êtes d'accord, on parle de la gauche un peu? Allez, elle était l'invitée ce matin du grand rendez-vous sur Europe 1, Anne Hidalgo, qui était dans le Nord la semaine dernière, qui fait un tour de France, qui a fait un pas de plus vers une possible candidature. On l'écoute.
Vous irez jusqu'au bout, comme on dit, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de cette candidature, où à un moment donné, vous allez dire, je n'y arrive pas et je donne la place à d'autres.
D'abord, je vais tout faire, mais vraiment tout faire, pour qu'il y ait une offre politique, écologique, sociale, démocratique, républicaine, et je vais m'y engager, mais alors vraiment à fond, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'optimisme aussi, parce que je suis sûre que beaucoup de Français entendent ce message-là et ont sans doute envie aussi d'autres choses pour eux et pour leurs enfants et surtout pour notre pays.
C'était sur Europe 1 ce matin. Bruno Jeudy, elle peut réussir, elle peut rassembler.
D'abord, il faut qu'elle arrive à rassembler.
Oui, c'est ça.
Pouvoir, ça, elle veut.
C'est ça,
pouvoir,
elle veut.
C'est une autre paire de manches. Ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours prendre Anne Hidalgo au sérieux quand elle dit qu'elle s'engage à fond, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé. Bon, de toute façon, la gauche n'a aucune chance si chacun reste dans son couloir. En gros, il y a quatre couloirs.
C'est mal parti.
S'ils sont chacun dans leur couloir, ouais. Bon, voilà, ouais. Ça ne marchera pas. Et Jean-Luc Mélenchon, peut-être encore moins que les autres, je ne le vois pas se réinventer. En revanche, Anne Hidalgo, elle peut être porteuse peut-être de quelque chose si elle arrive à rassembler, comme vous dites, et si elle arrive à franchir le périph'. Ça, c'est quand même une autre histoire.
C'est ce qu'elle essaye de faire. Elle sera demain, je crois, à Bordeaux. Elle peut réussir, Laetitia Krupa, à faire finalement ce qui était le rêve de Ségolène Royal, de rassembler de la gauche jusqu'au vert, jusqu'au centre-gauche.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Juste après le périph', Bruno, il faut aussi qu'elle rassemble, évidemment, et qu'elle convainque les écolos. Puisque c'est avec eux, il me semble, qu'elle pourra proposer une candidature fédératrice et qui pourra représenter une alternative nouvelle. Après, vous êtes comme moi, on lit les sondages, elle a beau dire qu'elle n'en a que faire.
Et que finalement...
Oui, voilà, finalement, elle l'a dit ce matin au micro d'Europe 1, elle a dit que toute sa trajectoire politique s'était faite en dehors des sondages qui la donnaient à chaque fois perdante et finalement, elle avait toujours gagné. Bon, soit, mais enfin, pour le moral d'une personnalité qui se prépare à cette campagne qui est rude, être à 6-8, c'est quand même un très mauvais signal.
Philippe Moreau-Chevrollet, Bruno Jeudy le disait à l'instant, on sent que ça bouge néanmoins à gauche. L'ex-premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis a demandé hier un pacte législatif entre les Verts et la gauche. Bon, on risque finalement d'avoir, une fois de plus, plusieurs candidatures. On n'est pas dans l'union encore, là.
Non, on n'est pas dans l'union. Et puis, il y a une grosse tension entre un axe qui consiste, qui est illustré peut-être par Benoît Hamon, qui consiste à rallier un candidat écolo et, au fond, à faire l'union de la gauche derrière les écologistes, ce qui est une tentation naturelle, puisque les écologistes ont pris clairement le leadership à gauche. Et puis, l'hypothèse Hidalgo, qui montre avec la mairie de Paris que les socialistes peuvent rester quelque part en domination ou du moins en direction du pôle écolo gauche. Et ça peut être une tentation, mais le problème, comme le dit Bruno Jeudy, c'est qu'elle manque d'implantation locale. Elle manque de notoriété aussi, pour dire les choses. Elle part quand même de très loin pour une campagne présidentielle. Ouais. Elle a aussi une image très parisienne naturellement, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle s'exprime sur les affaires parisiennes depuis la province, on va lui reprocher de parler des affaires parisiennes en dehors de Paris et de ne pas s'occuper assez de Paris. Donc c'est un peu compliqué pour elle d'arriver à faire une campagne nationale alors qu'elle est quand même maire de Paris avec un job à plein temps à Paris.
Je voudrais qu'on évoque aussi François Hollande. François Hollande qui fait la tournée de tous les médias, on l'a vu sur des chaînes de jeunes, Twitch, on l'a vu sur l'équipe TV. Bruno Jeudy, il veut continuer à faire entendre sa voix, il donne des interviews dans Le Parisien sur la justice, il critique bien sûr Emmanuel Macron. Est-ce qu'un ancien président devrait faire comme cela ?
Bon, un ancien président a le droit de s'exprimer, je ne vais pas lui...
Aussi souvent et aussi...
Il ne peut pas s'empêcher, il est bavard, il a une présidence bavarde, il a une retraite politique bavarde, il espérera, comme tous les anciens présidents, pouvoir revenir. Le problème, c'est que les Français ne l'attendent pas, il n'y a pas de nostalgie Hollande.
Personne, il n'y a pas d'attente. Hein.
Personne n'en veut. Donc je crois qu'il serait utile s'il pouvait aider la gauche. Le problème, c'est que tout le monde prend soin d'oublier, et de faire oublier qu'ils ont pu être à un moment ou un autre associés à François Hollande.
Philippe Moreau-Chevrollet, justement, il y a le retour, enfin en tout cas François Hollande qui est là, qui circule dans les médias. Il y a Manuel Valls qui sort un nouveau livre où il évoque un possible retour en 2022. Bon, on a le sentiment quand même que ça ne se régénère pas beaucoup.
Non, c'est le gros problème du Parti Socialiste, c'est que les éléphants en fait occupent tout l'espace, et à tel point d'ailleurs qu'Emmanuel Macron n'a pas eu grand-chose à faire finalement en 2017 pour aspirer vers lui toutes les jeunes pousses, comme Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'était quand même un jeune espoir du PS avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc il leur a donné, au fond Emmanuel Macron leur a dit, soit vous continuez à stagner avec les éléphants qui vont jamais vous laisser exister, soit vous venez chez moi, je fais de vous des députés, des ministres, et ça avant 40 ans. Ouais. C'est une promesse que le PS n'a jamais su tenir pour les jeunes, et s'il le paye aujourd'hui. Après, moi, je pense personnellement que la mission que se donne Hollande, c'est pas nécessairement d'être réélu, c'est de faire perdre Macron en 2022.
Un tout petit mot de Laetitia. On a le sentiment quand même que le PS, on oublie son patron Olivier Faure, le premier secrétaire. Mais qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Comment ils se réinventent ? Est-ce qu'ils se rénovent ? Est-ce qu'ils ont des idées ? Est-ce qu'ils ont un positionnement ? Est-ce qu'ils incarnent quelque chose aujourd'hui ? On ne sait pas ce qui se passe finalement au sein du PS.
Je crois que vous avez dit le mot juste, Thierry.
incarner. Qui incarne le PS? Écoutez, c'est quand même affolant de voir presque tous les jours François Hollande quelque part, parce que depuis qu'il a quitté l'Élysée, il squatte, pardon du mot, les médias, de voir ce battage autour du retour prétendu de Manuel Valls dans le dialogue. Hein, il ne dit pas qu'il sera candidat, mais il veut peser, hein, comme François Hollande, comme Ségolène Royal. Enfin, c'est quand même fou de les voir prendre cet espace-là, alors qu'Olivier Faure est complètement transparent et inaudible. Il y a un problème d'incarnation. En fait, c'est quand même, on le voit et on peut le mesurer chaque jour.
Allez, il nous reste que 3 minutes pour bien sûr vos traditionnelles vues, lues, entendues de la semaine. On commence avec vous, Bruno Jeudy.
Moi, mon vu et entendu, c'est je suis peut-être un peu partial. C'est ce qu'a dit Jean Castex en dehors du sanitaire sur BFM. Ouais. C'est sa position sur Marine Le Pen. On l'avait pas beaucoup entendu. Et mine de rien, il a un peu recadré la position macroniste sur le sujet. Et il a eu un mot assez simple, elle est incompétente. Donc il a remis un peu sur la ligne, il a remis la ligne sur Le Pen. Et au passage, désavoue un peu Gérald Darmanin, qui lui était parti dans des zigzags qui ont bien embarrassé Emmanuel Macron.
Vu, lu, entendu, Philippe Moreau-Chevrolet.
Alors moi, c'est l'interview de Olivier Véran dans Le Parisien ce matin que j'ai trouvé vraiment très bien, parce que je suis pas d'accord sur le zéro Covid. Contrairement à lui, je pense que ça peut s'étudier. Mais en revanche, sur le reste, il donne une perspective. C'est-à-dire, il commence à dire, voilà, à l'automne, si tout va bien, on va pouvoir refaire la fête, on va pouvoir vivre à nouveau une convivialité, retourner au restaurant. Enfin, il commence à poser un après et à donner une perspective de sortie. Ouais. Il est le seul à le faire en ce moment, donc ça fait du bien à lire et à entendre.
Allez, on termine avec Laetitia Krupa, lu, vu ou entendu. Laetitia.
Lu, une nouvelle hallucinante de renoncement et de bêtises. Alors, on a appris que le musée Carnavalet, quand il allait rouvrir ses portes, quand on pourra enfin rouvrir, allait le faire, mais en abandonnant les chiffres romains pour les chiffres arabes, car, je le cite, hein, les chiffres romains peuvent être un obstacle à la compréhension. Ça, c'est la chargée de com qui nous le dit. Et vous savez quoi, Thierry? Bah, le Louvre a embrayé, mais le Louvre maintiendra quand même les chiffres romains pour les rois et les reines. Enfin, bref, là, on nage en pleine absurdie, puisque c'est un peu le mot à la mode en ce moment.
C'est ça, c'est le mot,
ouais. Ouais, c'est toute la question de la défense du savoir dans la culture de masse. Est-ce que c'est possible ou pas et comment? Juste à noter que le quotidien italien, le Corriere della Sera, s'amusait cette semaine en disant que les musées français faisaient des concessions au marketing et au tourisme, alors que le Super Bowl aux États-Unis continue, lui, à donner des numéros de ses éditions avec des chiffres romains. Vous voyez ou pas? Vous voyez le gouffre où on tombe? Ben, moi, je le vois bien.
Merci à vous trois. Belles semaines, les grandes voix. On vous retrouve bien sûr avec plaisir avec Wendy Bouchard dès la semaine prochaine. Merci.
Europe Soir Weekend, Thierry Dagiral.
Et soyez les bienvenus dans ces deux heures d'information. C'est Sophie Tussaud qui vous informe. Bonsoir Sophie.
Ah bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Bon début de soirée sur Europe 1, il est 19h.
Il y a eu très très peu de sanctions qui ont été prises. Ça prouve bien soit que les entreprises se sont adaptées aux mises en demeure, soit qu'elles n'étaient pas si éloignées de ce qui était demandé.
Plus de télétravail pour limiter les contaminations en entreprise. Le gouvernement veut pousser au maximum les sociétés. Celles qui ne joueront pas le jeu seront sanctionnées.
Pas d'assouplissement des mesures sanitaires en Allemagne. L'épidémie est en pleine flambée. Angela Merkel veut prolonger les restrictions en place. Nous serons avec notre correspondante à Berlin.
Le ton monte entre Londres et Bruxelles sur la livraison du vaccin d'AstraZeneca. L'Europe menace et le Royaume-Uni grince des dents.
Et puis un bébé panda est-il en route aux eaux de Beauval ? Réponse d'ici quelques semaines, mais en attendant, les vétérinaires mettent tout en œuvre pour faciliter la procréation.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Accélérer sur le télétravail, c'est ce que souhaite Jean Castex pour ralentir la progression de l'épidémie. Le Premier ministre a demandé aux entreprises qu'il soit appliqué au moins 4 jours sur 5.
Oui, plus de télétravail, c'est moins de brassage en entreprise et donc moins de risque de contamination. Gabriel Attal, invité ce matin de nos confrères de BFM TV, est revenu sur cet objectif. Le porte-parole du gouvernement annonce que les contrôles vont être renforcés et les entreprises qui ne joueront pas le jeu s'exposeront à des sanctions, Aurélien Fleurot.
Oui, les services de l'inspection du travail seront à nouveau mis à contribution. Dans la foulée des annonces de Jean Castex, trois ministères, Intérieur, Fonction publique et Travail, ont envoyé une instruction au préfet afin de renforcer l'effectivité du recours au télétravail. Certains secteurs avaient déjà été pointés du doigt par Elisabeth Borne comme ne jouant pas assez le jeu, les banques, le conseil ou encore la communication. Et puis des contrôles, il y en a eu avec recommandations puis mise en demeure. Et peu de sanctions à l'arrivée, souligne Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.
Renforcer les contrôles, oui, très bien. On est toujours un petit peu surpris par cette réaction immédiate de sanctions et de contrôles. Mais en réalité, quand vous regardez, il y a eu très très peu de sanctions qui ont été prises. Ça prouve bien soit que les entreprises se sont adaptées aux mises en demeure, soit qu'elles n'étaient pas si éloignées de ce qui était demandé.
Selon lui, il faut aussi prendre en compte la lassitude des salariés pour qui le télétravail n'est pas toujours bien vécu. Mais dans cette période de renforcement des restrictions, le gouvernement s'appuie sur une étude de l'Institut Pasteur et de l'Assurance Maladie qui indique que le télétravail, même partiel, réduit le risque de contamination de 25% et que le travail représente 29% des contaminations hors foyer.
Aurélien Fleurot et Gabriel Attal qui, par ailleurs, défend la logique du chacun chez soi ou alors dehors. Le porte-parole du gouvernement insistait sur la nécessité de ne pas recevoir d'inviter chez soi. Le ministère de l'Intérieur a précisé de son côté qu'il s'agissait d'une recommandation. En pleine pandémie, des fêtards font fi justement de ces recommandations. 6500 personnes ont participé cet après-midi à un carnaval sauvage à Marseille, un rassemblement qualifié d'irresponsable par la police qui a dû intervenir pour disperser la foule.
La vague de contamination accélère en Europe. L'Allemagne également est fortement touchée et voit la perspective d'un assouplissement des restrictions s'éloigner.
Angela Merkel se réunira demain avec les régions pour décider de la stratégie anti-pandémie. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europa en Allemagne. Bonsoir.
Bonsoir.
Avant même cette réunion, la chancelière a annoncé la couleur. Le pays se prépare à un nouveau tour de vis.
Oui, et sur la base du document de travail que la chancelière veut soumettre au président de région demain et qui a filtré, la presse nous annonce effectivement que tout est encore négociable, mais l'idée est vraiment de tirer sur le frein de secours car l'incidence a franchi ce week-end le seuil des 100 cas pour 100 000 habitants. C'est vraiment beaucoup moins qu'en France, environ deux fois moins. Mais il y a un mois, lors de la précédente réunion de crise, la levée très progressive de certaines mesures comme la réouverture des zoos ou des écoles primaires en demi-jauge avait été autorisé si et seulement si on restait sous ce chiffre symbolique des 100 cas pour 100 000 habitants. Il va falloir donc détricoter le calendrier des ouvertures et même en rajouter des restrictions supplémentaires en vue des vacances de Pâques qui commencent vendredi prochain. Il est question notamment d'interdire les déplacements entre les régions pour une Pâques sans contact, dit le Bild, et aussi de contraindre tous les voyageurs de retour de l'étranger à une quarantaine, même s'ils ont séjourné dans une zone où il y a peu de cas de Covid. Et cela cible notamment les Baléares, l'île de Majorque, destination très prisée des Allemands et pour laquelle les agences de touristes ont fait beaucoup de publicité ces derniers jours en vantant la très bonne situation sanitaire. De nombreux vols spéciaux ont été affrétés. Et bien pour tous ces touristes allemands, au retour, ça sera isolement pendant deux semaines.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Alors, outre les restrictions pour freiner les contaminations, les pays comptent sur la vaccination, mais les livraisons de doses ne suivent pas, notamment pour AstraZeneca.
Et la présidente de la Commission européenne a d'ailleurs menacé le laboratoire de bloquer ses exportations si l'Europe ne recevait pas les vaccins commandés. Une menace qui déplaît fortement à Londres, qui s'est sentie visée, Isabelle Horry.
Oui, à juste titre, car à ce jour, les deux usines britanniques d'AstraZeneca n'ont pas livré un vaccin sur le continent, contrairement à ce qui est prévu dans le contrat signé par Bruxelles. Et pourtant, dans le même temps, les usines de vaccins installées dans l'Union européenne ont, elles, exporté 10 millions de doses de l'autre côté du Channel. Alors évidemment, Bruxelles s'étrangle, surtout que la Commission européenne ressent la pression des opinions publiques qui trouvent que la vaccination va vraiment trop lentement chez nous. Depuis quelques jours, Ursula von der Leyen brandit donc une menace. L'Union pourrait interdire les exportations vers les pays qui ne pratiquent pas la réciprocité. Ça serait contre-productif, lui a rétorqué tout à l'heure le ministre de la Défense de Sa Gracieuse Majesté. Contre-productif parce que la production d'un vaccin implique toujours plusieurs pays. Ériger des murs nuirait aussi aux citoyens de l'UE, met-il en garde. Cette proposition de la présidente de la Commission sera en tout cas sur la table des 27 dirigeants européens jeudi et vendredi, à eux de décider si l'Europe passe à l'acte ou pas.
Isabelle Lery, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, en France. Anne Hidalgo, sur Europe 1 ce matin, a appelé le gouvernement à débrider la vaccination et à permettre à tous ceux qui le souhaitent de recevoir une dose. L'exécutif, de son côté, vise 20 millions de personnes vaccinées à la mi-mai. Pour l'heure, plus de 6 millions de Français ont reçu au moins une injection.
19h07 sur Europe 1, on sait bien, les conséquences économiques de la pandémie sont multiples. Parmi les secteurs qui souffrent, il y a la filière vinicole. Depuis le début de la crise, les ventes de vin sont en chute libre.
Oui, hier, les vignerons manifestaient d'ailleurs devant un supermarché de Libourne, en Gironde. Ils dénoncent la politique de prix cassé sur certaines bouteilles que pratique la grande distribution, pénalisée notamment par la fermeture des restaurants. La viticulture vit un cauchemar depuis un an. Reportage en Gironde de notre correspondant Stéphane Place.
Une trentaine d'hectares de vignes ici à Targon que ce viticulteur exploite depuis plus de 30 ans. Alain Dufour a investi pour moderniser son entreprise, certifié haute valeur environnementale, désherbage mécanique et plus chimique. Il vit son métier avec passion, mais avec la crise sanitaire depuis un an, ce sont les comptes qui plongent dans le rouge.
Baisse de la commercialisation pour moi de 70%, tout confondu, que ce soit vrac ou bouteille. Une année normale, au 15 mars, j'ai vendu pratiquement toute la partie destinée au négoce bordelais en vrac, c'est-à-dire 1000-1500 hectos. Aujourd'hui, j'en ai vendu en tout et pour tout 150. Les restaurateurs fermés, ils n'achètent plus de bouteilles. Les particuliers, il y a eu, à la suite du premier confinement, des gens qui achetaient sur notre site internet, puis c'est vite retombé. Puis les cavistes, reste très frileux. La crise conjoncturelle qu'il y avait depuis 18 mois, plus la crise Covid, font qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de vins en chai. Le cycle végétatif de la vigne continue. Donc, il faut mettre en culture, il y a des dépenses à faire. Et en face de ça, on n'a pas les recettes escomptées pour pouvoir pallier ces dépenses.
Alain Dufour a dû recourir au chômage partiel pour l'un de ses deux employés. Ici, dans le Bordelais, les stocks restent dans les chais, les prix de vente s'effondrent et les vignerons ne voient plus le bout du tunnel. Targon, Stéphane Place, Europe 1.
Soir week-end. Et avec la suite de votre journal dans un instant, le journalisme sportif n'est pas un métier uniquement réservé aux hommes. 150 femmes signent une tribune aujourd'hui pour plus de parité dans la profession. On vous en parle dans un instant. Et puis on s'intéressera également aux pandas du zoo de Beauval qui pourraient devenir à nouveau parents dans les semaines qui viennent. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Avec la suite du journal de Sophie Tussaud, le journalisme sportif n'est pas l'apanage des hommes. 150 femmes journalistes spécialisées dans ce secteur le crient haut et fort dans une tribune publiée aujourd'hui sur le site du Monde, Sophie.
Alors qu'elles occupent le terrain comme les hommes, elles dénoncent l'infériorisation des femmes dans les rédactions sportives. Une initiative lancée par un nouveau collectif baptisé Femmes journalistes de sport. Et le message est clair, Laura Taouchanoff, il n'y a pas que les hommes qui aiment le sport.
Non, Sophie, et pourtant le collectif dénonce l'infériorisation des femmes dans les rédactions sportives. Et ce chiffre marquant sur une journée consacrée au sport, le temps de parole des femmes est de 13% contre 21 heures de parole pour les hommes. Alors il est urgent que cela change, explique la journaliste Canal+, Laurie Delostal, cofondatrice du collectif Femmes journalistes de sport.
On a le sentiment que le sport est réservé aux hommes, dirigé par des hommes, qui embauchent des hommes. Pour parler à des hommes, il n'y a pas que les hommes qui aiment le sport. C'est presque posé comme une fatalité, alors qu'il n'y a pas de fatalité à ça.
Et dans ces conditions difficiles pour certaines femmes de se sentir légitimes, un climat qui peut parfois conduire à des violences, c'est ce qu'explique Tiffany N., l'une des journalistes à l'origine de la tribune.
À combien de femmes journalistes de sport c'est arrivé de donner son avis sur un match, donner une information et de se faire insulter, retourne en cuisine. Quand t'es une femme et que tu te trompes, c'est parce que t'y connais rien. Quand t'es un homme, c'est pas grave, l'erreur est humaine. Bah, c'est pas forcément vrai pour une femme. Et ça, c'est assez difficile.
Une tribune publiée à l'occasion de la diffusion d'un documentaire tout à l'heure à 18h sur Canal+. Des témoignages de femmes journalistes de sport et des combats pour gagner en visibilité.
Merci Laura Taouchanoff.
J'aime le sport, vous, Sophie ?
Oui, j'aime le sport.
Bon, on prend la direction du zoo de Beauval à présent. Peut-être on aura d'ici quelques temps l'annonce d'une bonne nouvelle.
Oui, Yuang Meng, le panda qui fêtera l'été prochain ses 4 ans, va-t-il devenir grand frère ? En tout cas, tout est mis en œuvre pour. Ses parents, un couple de pandas prêtés par la Chine à la France, sont mis en contact depuis hier pour qu'ils s'accouplent, Théo Manval.
Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont un tout petit peu la pression. Imaginez la période pendant laquelle la femelle panda Juan Juan est féconde, c'est 24 à 48 heures dans une année, et c'est maintenant. Alors hier après-midi et une partie de la nuit, pas moins de 15 vétérinaires spécialistes, certains venus d'Allemagne, d'Allemagne, de Belgique se sont relayés à leur chevet pour les mettre en contact. C'est effectivement comme ça qu'on dit, dans des loges de nuit, des enclos spéciaux. Car le panda est un animal très solitaire, il faut donc faire en sorte que l'alchimie prenne vite. Et ça a plutôt fonctionné, se félicite Baptiste Mulot, le chef vétérinaire de Beauval, qui a joué les Cupidons une bonne partie de la nuit.
Ça s'est très bien passé en fait par rapport aux années passées parce que les deux étaient vraiment très actifs, beaucoup plus matures sexuellement et donc ils interagissent vraiment de manière idéale entre eux. On regarde en fait les différents positionnements, positionnement de la femelle par rapport au mâle et puis le positionnement du mâle aussi. Est-ce qu'il est bien placé? Est-ce qu'il reste assez longtemps à cet emplacement-là? On a un très fort espoir là cette année d'un petit frère ou d'une petite sœur pour Yang Meng. Toutes les chances sont de notre côté en tout cas pour que ça ait fonctionné.
Et oui, parce que par sécurité, une insémination artificielle a aussi été réalisée. En plus, on saura d'ici quelques semaines si un deuxième bébé panda est bien en route à Beauval et sa naissance. Eh bien, difficile de la prévoir précisément, puisque figurez-vous que le panda est le seul mammifère dont la mère peut suspendre son début de grossesse, le temps de bien prendre des forces pour la suite.
On attend la bonne nouvelle. Alors merci Théo Manval.
Et merci à vous. C'était le journal de Sophie Tussaud. À tout à l'heure, 19h30, Sophie. Valérie Darmon, la météo, le temps de nos régions pour demain, Valérie.
De la Bretagne aux Hauts-de-France, la grisaille s'impose toute la journée dans un ciel brumeux. Des pays de la Loire aux Ardennes, en passant par le bassin parisien, les éclaircies gagnent du terrain au fil des heures. De la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est, à la Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne, en Rhône-Alpes, les nuages bas matinaux, parfois doublés de brouillard, laissent la place à de belles éclaircies dans un ciel voilé. Sur les régions méditerranéennes et sur l'île de Beauté, le soleil continue de briller, mais Mistral et Tramontagne soufflent violemment jusqu'à 100 km/h en pleine du Roussillon. Sillon, dans les Corbières, en Basse-Vallée du Rhône et en Provence, et les températures poursuivent leur adoucissement.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure. Voici le journal des sports, Jean-François Pérès.
Nous sommes là.
Le retour avec le foot à la une ce soir sur Europe 1, bien sûr.
Eh oui, la fin de la 30e journée de Ligue 1 et un nouveau rebondissement improbable en tête de classement puisque Lille, qui recevait l'avant-dernier Nîmes, eh bien Lille a chuté contre toute attente, Sébastien Bouet. Sébastien Bouet. Oh, il n'est pas encore là, Sébastien Bouet. On va le retrouver tout à l'heure. Sachez que Lille s'est incliné 2-1 sur sa pelouse face à Nîmes. On l'a retrouvé, Sébastien Bouet. C'est parti.
Oui, les Nîmois ont créé la surprise sur la pelouse du leader. Victoire 2-1. Les joueurs du Nîmes Olympique, 19e au coup d'envoi, ont ouvert le score dès la 12e minute par Moussa Koné. L'égalisation lilloise est arrivée très vite, 8 minutes plus tard. Mais en contre, les Gardois ont repris l'avantage à la 45e minute avec à la conclusion un but magnifique de Ripart qui punit une équipe du LOSC fébrile défensivement et très décevante à court de solutions. Pas d'idée, pas d'imagination, incapable de se créer la moindre occasion en seconde période. Le leader nordiste n'y était pas. À une place de leader que le LOSC occupe depuis le 3 février et qu'il pourrait bien perdre ce soir en cas de succès de Lyon ou du PSG qui s'affrontent à 21h.
Voilà, ça valait le coup d'attendre. Merci Sébastien. Les autres résultats de l'après-midi, Lens qui s'impose à Strasbourg 2-1 et reprend la 5e place. C'est le 9e match sans défaite pour les Lensois, de plus en plus européens. Et puis les résultats des autres matchs de l'après-midi, Nantes-Lorient 1 partout, Montpellier qui bat Bordeaux 3-1, 0-0 entre Brest et Angers. Enfin Reims s'impose à Dijon 1-0, Dijon dernier qui concède sa 10e défaite d'affilée, c'est un record en Ligue 1.
Jean-François, dans moins de 2 heures en direct sur Europe 1, l'une des plus belles affiches de la saison.
Oui, Lyon, Paris Saint-Germain, les Dauphins de Lille hein, face à face. Du coup, peut-être on aura le nouveau leader du classement ce soir à l'issue de ce match. Le perdant, lui, fera une très mauvaise opération dans la course au titre. Lyon l'avait emporté 1-0 à l'aller et l'entraîneur de l'OL, Rudy Garcia, veut s'en souvenir.
La victoire à Paris au match aller nous montre qu'on peut battre cette équipe. Maintenant, ça sera un match complètement différent. On sait qui on rencontre. Aucune équipe ne survole la preuve sur les résultats des 4 derniers matchs. Donc, voilà. On va se concentrer sur celui-là, regarder derrière pour corriger les choses qu'on peut corriger et surtout garder le meilleur de notre jeu et de nos joueurs et de notre équipe.
Voilà, Rudy Garcia avec Maxime Schoch à Lyon. Coup d'envoi 21h pour ce Lyon-Paris Saint-Germain.
Et on vivra bien sûr ce match en intégralité dans Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Thierry.
Des débats et un invité exceptionnel sur notre antenne ce soir.
Absolument, sur notre antenne ce soir et demain aussi dans la matinale de Mathieu Béliard à 7h40. Raphaël Varane, l'international français du Real Madrid, le défenseur qui s'exprimera longuement demain matin. Mais dès ce soir, nous pourrons l'entendre notamment sur le cas de Kylian Mbappé, qu'il aimerait peut-être voir le rejoindre au Real Madrid. En tout cas, il compare la star du Paris Saint-Germain au nouveau Messi, au nouveau Cristiano Ronaldo.
C'est toujours compliqué les comparaisons. Je pense que Messi et Cristiano, c'est hors norme. et ils ont une place bien particulière dans l'histoire du foot. Je pense que Kylian a les qualités pour marquer aussi sa génération et le football en général.
Kylian Mbappé au Real Madrid, est-ce le club idéal? On en parlera ce soir dans nos débats.
À tout à l'heure Lionel, juste après 20h. Le reste du sport en bref, Jean-François.
Oui, je vous donne un dernier mot de rugby puisqu'il y a un forfait pour le dernier match du tournoi. Vous l'avez vécu hier sur Europe 1, la magnifique victoire des Bleus 32 à 30 contre les Gallois. Et bien le demi d'ouverture bordelais Mathieu Jalibert a été victime d'un choc. Il est forfait, il sera remplacé par Louis Carbonel, le Toulonnais. France-Écosse, ce sera vendredi 21h.
C'était le journal des sports signé Jean-François Pérez. Merci.
Europe Soir Weekend.
19h19 sur Europe 1, nous sommes à la veille d'une semaine d'action et d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Qui sont les publics les plus fragiles, les moins armés face à ce sujet? Avec nous dans un instant, Jacques Fredge, le directeur du mémorial de la Shoah. Et puis à 19h30, Planète Sauvage, on va vous parler des abeilles à miel à l'état sauvage. Leur observation permet de mieux protéger nos abeilles d'élevage. Restez avec nous, ça continue l'information sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, Thierry Dagiral.
19h21 sur Europe 1, nous sommes le dimanche 21 mars et le travail de sensibilisation à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme a commencé aujourd'hui au mémorial de la Shoah à Paris, dont vous êtes le directeur. Bonsoir Jacques Fredge.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1. Aujourd'hui, au gré de débats en ligne, vous avez associé chacune de ces luttes, comme toujours, autour d'un livre, notamment « Les Juifs dans le Coran » pour dépasser les idées reçues d'un Coran antisémite et d'un islam véhiculant une haine du juif. Ces similitudes vous permettent de montrer que la lutte, que la cause, finalement, elle est commune.
Écoutez, ce qui est sûr, c'est que, d'abord, dire une chose, c'est qu'au mémorial, ce travail, on le fait toute l'année. On n'attend pas la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme pour travailler sur ce sujet. Donc, durant cette semaine, on a voulu, cette fois-ci, mettre l'accent, en effet, sur... interroger, en tous les cas, cette idée et cette relation entre les juifs et les musulmans, entre le judaïsme et l'islam, de façon à dire qu'il y a en effet des ponts, des liens, des histoires communes,
ouais.
Et puis aussi des oppositions et des massacres qui se sont faits parfois dans certains pays arabes ou des expulsions. Dire à peu près tout, c'est-à-dire dire les choses
dire la d'une manière connaître le passé pour mieux comprendre justement ce qui se trame aujourd'hui.
Voilà, etc.
Et absolument.
En fait, c'est que, vous savez, on vit en France avec des... Alors, bien évidemment, c'est une évidence de dire que le conflit du Proche-Orient a été exporté, malheureusement, dans un certain nombre de lieux en France.
Ouais.
Et que cette exportation se fait aussi... Elle se gagne aussi parce que il y a une ignorance de l'histoire des Juifs en terre d'islam. Par ces jeunes générations qui sont nées en France. Et donc, il est nécessaire de rappeler certaines choses sous toutes ces facettes, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, y compris en disant qu'il y a un islam républicain et que le judaïsme l'a été depuis de longs siècles.
Jacques Fredge, vous avez sans doute lu ce sondage IFOP hein, de dimanche dernier, commandé par l'Union des étudiants juifs de France et SOS Racisme. Une majorité de Français se dit préoccupé par ces questions et la haine contre les Noirs, les musulmans, les Juifs, les 18-24 ans se montrant moins perméables aux préjugés racistes. Comment vous interprétez cela? Comment vous l'analysez?
Alors, moi, je vais vous surprendre, en fait. Ça fait quelques années que moi, je ne lis plus les sondages sur cette thématique. Parce que
Pourquoi
souvent, un sondage en chasse un autre... Ouais. Et finalement, on découvre que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, elle doit être permanente. Et qu'en fait, c'est ça, c'est le mythe de Sisyphe, en fait. Hein. C'est l'idée que c'est un combat qui ne doit pas s'arrêter. On interroge le niveau du racisme et de l'antisémitisme comme si c'était un événement isolé... Dans tout ce qu'on enseignait dans nos sociétés. Or, depuis des millénaires, des siècles, on dit aux hommes de ne pas tuer, mais il y a quand même des meurtres. Mmh. On dit aux gens de ne pas voler, mais il y a quand même des vols. On s'étonne aujourd'hui qu'il y ait du racisme et de l'antisémitisme. Le racisme et l'antisémitisme est scandaleux. Et donc, il ne faut pas s'habituer à cette haine qui ne cesse de se manifester. Mais néanmoins, il faut considérer aujourd'hui, et ça serait totalement... naïf de ne pas le reconnaître, il faut s'habituer à l'idée qu'il faut combattre de manière permanente le racisme et l'antisémitisme sans répit, parce qu'on voit bien que même pendant la pandémie, le racisme et l'antisémitisme s'est manifesté, les théories complotistes ont pullulé sur Internet.
Bien sûr.
Voilà.
C'est en l'école, à l'école, que les Français ont le plus confiance pour lutter contre cette haine. On l'a bien vu dans l'actualité récente, des drames traumatisants comme la mort de Samuel Paty. Est-ce que ça ne remet pas finalement en cause toutes ces questions, tous ces fondements ?
Bah, écoutez, ce qui est sûr, c'est que ça remet en cause plutôt notre façon d'enseigner et d'éduquer.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a en effet une nécessaire adaptation de notre discours et de la pédagogie. Hein. Nous, c'est un peu l'histoire de notre institution. En fait, nous, on est une institution académique qui enseigne l'histoire de la Shoah, une vieille institution qui existe depuis 1943.
Ouais.
Et puis, après les attentats de Toulouse et de Montauban, on s'est quand même posé un certain nombre de questions en se disant que pour la première fois, un jeune né en France, décidait d'assassiner des soldats et puis des enfants dans une école juive. Qu'est-ce qu'on avait raté ? Qu'est-ce qu'il avait poussé ? Et qu'est-ce qu'on avait raté en matière de pédagogie ? C'est exactement ça qui doit aujourd'hui nous conduire à être extrêmement innovants et se remettre sans cesse en question en matière de pédagogie.
Et justement, qu'est-ce que vous dites aux professeurs ? Qu'est-ce que vous dites aux parents ? Comment on peut élever nos mômes ? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos mômes ?
Bah, en fait, nous, on s'est rendu compte, si vous voulez, dans notre sujet, on s'est rendu compte que l'enseignement de l'histoire de la Shoah n'était pas un vaccin contre l'antisémitisme.
Exact.
En enseignant l'histoire de la Shoah uniquement tournée vers le passé, ça n'était pas suffisamment efficace. Qu'il fallait aujourd'hui, et c'est le changement que nous avons opéré au sein du mémorial, on s'est dit, nous n'allons pas enseigner l'histoire de la Shoah uniquement comme des spécialistes, mais nous allons l'enseigner en montrant les conséquences du racisme et de l'antisémitisme dans l'histoire. Et comme le mémorial travaille sur l'histoire du génocide, des génocides en général, eh bien nous avons élargi notre travail à la question des génocides, montré la question du racisme et de l'antisémitisme dans l'histoire des génocides, c'est-à-dire éclairer notre présent avec le passé. C'est ça l'idée.
Jacques Frege, la Ligue de football professionnelle a fait de la lutte contre toutes les discriminations une des priorités de sa démarche RSE et a lancé un programme ambitieux pour que le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme disparaissent totalement de l'univers du football professionnel. C'est un bon point, ça va dans le bon sens ce genre d'initiative pour vous ?
Oui, ça va absolument dans le bon sens parce qu'il y a une chose que nous avons réalisée au mémorial, c'est que cette éducation que nous menons, elle doit être menée d'une manière beaucoup plus large par tous les acteurs de la société. D'abord, d'une part, il faut professionnaliser, systématiser cette éducation contre le racisme et l'antisémitisme, et il faut la généraliser. Ça ne peut pas être nos musées, nos institutions, nos professeurs, mais il faut que ce soit les entreprises, les associations sportives, que vraiment ce soit comme la lutte pour l'environnement, que ce soit un vrai combat mené par tout le monde.
Jacques Frege, pour terminer, il faut rappeler ce chiffre. Hein, le mémorial de la Shoah, c'est 40 000 élèves qui s'y rendent chaque année. C'est bien cela.
Alors, c'est 80 000 élèves qui viennent tous les ans.
D'accord.
Et je dois dire que ce que nous faisons aujourd'hui en pleine pandémie, c'est que nous allons dans les écoles.
D'accord.
Puisque le mémorial est fermé comme tous les musées.
Exactement.
Nous avons décidé d'exporter nos activités dans les écoles.
Là, en ce moment, la semaine prochaine, vous serez dans les écoles.
Cette semaine, nous avons une centaine d'ateliers
aux enfants.
Absolument.
Très bien. Et on y voit quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce qui s'y passe dans ces écoles ?
Dans ces ateliers, l'idée, c'est d'abord une rencontre. Parce que l'éducation, c'est d'abord une rencontre.
Bien sûr.
C'est aussi presque une rencontre en tête-à-tête. Parce que finalement, on s'est rendu compte que dans cette jeune génération, ce qui domine, ce sont les préjugés et non pas l'idéologie. Donc l'idée, c'est aussi de déconstruire les préjugés dans des ateliers où on parle du racisme, de l'antisémitisme, des génocides, des théories complotistes, etc. Également de la propagande, parce que vous comprenez que dans un génocide, la propagande est très importante et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet, hein, qui accompagnent toutes ces théories complotistes qui sont diffusées.
Et c'était important de vous entendre avant cette semaine qui débute contre le racisme et l'antisémitisme. Jacques Frege, directeur du Mémorial de la Shoah sur Europe 1 ce soir. Merci à vous, monsieur.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Europe Soir Weekend, Thierry Dagiral.
Et à 19h30, le fil info avec vous, Sophie Tussaud.
Carnaval sauvage cet après-midi à Marseille. 6500 personnes ont défilé entre la Plaine et la Canebière, un événement non autorisé par la préfecture qui dénonce l'irresponsabilité des participants en pleine pandémie. La police a dû intervenir pour disperser les fêtards. Peut-on recevoir des invités chez soi ? Non, a déclaré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui insiste sur la logique du chacun chez soi ou bien dehors. Temporisation ce soir du ministère de l'Intérieur qui réaffirme qu'il s'agit d'une recommandation. Gabriel Attal qui par ailleurs prévient les entreprises qui ne joueront pas le jeu du télétravail, elles seront sanctionnées. Les contrôles vont être renforcés. Anne Hidalgo veut débrider la vaccination. Sur Europe 1, la maire de Paris a souhaité qu'elle puisse être ouverte à tous ceux qui le souhaitent. L'exécutif de son côté pointe le nombre de doses pour l'heure insuffisant. Le ton monte entre Londres et Bruxelles sur le vaccin AstraZeneca alors la Commission européenne menace le laboratoire de bloquer ses exportations s'il n'honore pas son contrat avec l'Europe. Le Royaume-Uni prévient qu'une telle action serait contre-productive. Et puis un gros astéroïde a frôlé la Terre tout à l'heure vers 17h à 124 000 km à l'heure. Il est le plus gros à s'approcher aussi près de nous cette année à 2 millions de kilomètres.
Merci Sophie Tussaud, à tout à l'heure. L'info revient à 20h avec vous.
Europe Soir Weekend, Thierry Dagiral, Planète Sauvage.
L'actualité des animaux, chaque dimanche sur Europe 1, alors que l'entrée dans le printemps nous fait réfléchir à la situation des abeilles, dont on sait qu'elles sont des sentinelles de l'environnement. Bonsoir Yves Lecomte.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur, directeur de l'unité abeilles et environnement du centre INRA à Avignon, et vous préfacez un livre important sur l'abeille à miel. L'abeille à miel, c'est notre abeille finalement domestique, si j'ose dire.
Oui, c'est ça, c'est une abeille sociale qui a été domestiquée par l'homme depuis des siècles.
Et il faut bien expliquer, Yves Lecomte, qu'il n'y a pas qu'une espèce d'abeille, il y a plusieurs milliers dans le monde. Expliquez-nous ça simplement, pour ceux qui nous écoutent.
Alors, simplement, quand vous dites, par exemple, les oiseaux, il y a plein d'espèces d'oiseaux,
ouais.
Eh bien, les abeilles, c'est la même chose, il y a plein d'espèces d'abeilles.
Ouais.
Il y en a des petites, il y en a des grosses, il y en a des sociales, comme l'abeille domestique, qui est le top niveau de la socialité chez les insectes. Et puis, il y en a qui sont solitaires. Et donc, dans le monde, on a répertorié à peu près 20 000 espèces d'abeilles.
D'accord, 20 000.
Et on en aurait une partie en Europe de ces abeilles-là.
Et les nôtres, elles ont hiberné cet hiver. Où sont-elles en ce moment? Quand est-ce qu'on les reverra sortir butiner?
Alors, ça dépend beaucoup de l'espèce d'abeilles. Si c'est les abeilles domestiques, celles qui font du miel, eh bien, dans le midi, ça y est, elles sont bien sorties, ouais. Elles sont bien développées. Et puis, elles attendent, vous voyez, comme chez nous à Avignon, il fait beaucoup de mistral.
Ouais.
Il y a des fleurs de partout, mais elles attendent que le mistral cesse pour vraiment profiter des fleurs.
Bien sûr.
Aux autres abeilles qui sont solitaires, alors ça dépend. Il y en a qui vont apparaître très tôt au printemps, d'autres qui vont apparaître plutôt à l'automne.
Ouais.
Ça dépend de l'espèce et du végétal sur lesquels elles vont trouver leur nectar et leur pollen. Et
Yves Lecomte, dans ce livre, donc, l'auteur Thomas Desilet, éminent biologiste américain, met en lumière les différences entre les conditions de vie des abeilles domestiques vivant en ruche et celles des abeilles sauvages. Qu'est-ce qui change notablement entre les deux?
Alors, j'explique d'abord les abeilles domestiques. Initialement, elles sont sauvages, donc leur stratégie, c'est de trouver des cavités.
Ouais.
Et quand elles ont trouvé leur cavité de rêve, elles font leur nid et elles s'établissent dans ce nid-là.
Mmh.
Bon, nous, les hommes, on les a sortis des cavités pour les mettre dans des ruches.
D'accord.
Voilà. Et Tom Silley, ce qu'il a montré, c'est que dans une forêt américaine qu'il connaît depuis qu'il est tout petit, il a dénombré un certain nombre de colonies sauvages qui sont installées dans des troncs d'arbres creux. Et il a montré que finalement, ces colonies, eh bien, elles demandaient rien à personne et elles se débrouillaient très bien pour ouais. survivre à tout, notamment à un acarien qui s'appelle le varroa ouais. et qui décime les abeilles, les abeilles domestiques et notamment celles qui sont dans les ruches de nos apiculteurs.
D'accord.
Pour en savoir plus, et si la vie de ces colonies vous passionne, Abeilles à miel, la vie secrète des colonies sauvages, que vous préfacez Yves Le Conteau aux éditions Biotope. Grand merci à vous. Merci beaucoup, monsieur.
Je vous en prie. Au revoir.
Europe Soir Weekend.
Allez, dans un instant, une chanson dans la tête avec Fabien Lecoeuvre, ses textes et ses mélodies qui ont marqué la société pour s'engager contre le racisme et l'antisémitisme. Restez avec nous sur Europe 1, à tout de suite.
Europe Soir Weekend, une chanson dans la tête.
Ah, j'aime bien ce rendez-vous avec Fabien Lecoeuvre. Bonsoir Fabien.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Une chanson dans la tête comme tous les week-ends bien sûr à cette heure-ci. Alors nous sommes, on l'a dit, à la veille d'une semaine d'éducation et d'action contre le racisme, l'antisémitisme, on en parlait à l'instant. Ce soir Fabien, vous avez rassemblé les chansons qui dénoncent justement le racisme. We are from the north.
Alors Thierry, n'oublions jamais l'importance d'une chanson qui alerte et qui fait indiscutablement et souvent évoluer nos sociétés. Alors elles sont très nombreuses Thierry, les chansons qui permettent aux humains de réfléchir dans le bon sens. C'est alors un thème récurrent des œuvres musicales de plusieurs artistes qui se sont souvent mobilisés pour lutter contre la discrimination raciale.
Et on le disait Fabien, nous sommes le dimanche 21 mars, journée mondiale donc contre le racisme d'ailleurs.
Et la date du 21 mars, Thierry, n'a pas été choisie par hasard.
Ah ouais.
Elle correspond au 21 mars 1960, quand la police a tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifiste à Sharpeville, en Afrique du Sud. D'ailleurs, aujourd'hui, le 21 mars, est un jour férié dans ce pays. Et c'est en 1966 que les Nations Unies ont proclamé cette journée internationale, Thierry.
Et parmi les grandes figures de la lutte contre le racisme, bien sûr, Angela Davis a inspiré beaucoup de chansons. Oh, Angela, Angela, my home is your home. Oh, Angela,
Angela, you know you never walk alone. Alors Thierry, ce tube de 2010, interprété par Yannick Noah sur des paroles de Robert Goldman, vous savez, le frère de Jean-Jacques, rend hommage tout simplement à Angela Davis. Alors Angela était une prof de philosophie américaine, militante des droits de l'homme et des droits civiques. Elle était proche du parti des Black Panthers, bien sûr, et s'est battue aux côtés de Martin Luther King et Malcolm X dans les années 60 pour donner justement le droit de vote aux Noirs américains et en finir avec la ségrégation.
Et Fabien, c'est elle aussi qui a inspiré Pierre Perret.
Vous avez raison Thierry. En juin 1972, au cours d'un voyage à New York, Pierre Perret avait été très sensible au discours contre le racisme et l'intolérance qu'avait donné justement Angela Davis au Madison Square Garden. Et cet activiste universitaire qui avait été traqué par le FBI et même emprisonné a beaucoup touché Pierre Perret. Et lorsqu'il est revenu en France, il a décidé de faire une chanson sur le thème du racisme. Et c'est ainsi qu'est créé, on va dire en 1977, un hymne à la tolérance intitulé Lily.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo.
Superbe chanson. Lily, et pour ce disque, Fabien, Pierre Perret a été récompensé par la LICRA. Hein.
Et oui, mais au-delà des 300 000 petites Lily qui naîtront l'année suivante, hein, faut le rappeler, eh bien, Pierre Perret obtient le prix de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Des profs de français mettent la chanson d'ailleurs à leur programme en 2005, et elle sera même l'un des sujets de l'épreuve des baccalauréats technologiques.
Fabien, c'est une autre figure de la lutte contre le racisme qui a inspiré Pascal Obispo.
Exactement Thierry, l'afro-américaine Rosa Parks, bien sûr devenue célèbre le 1er décembre 1955 à Montgomery dans l'Alabama, en refusant de céder sa place dans un bus à un passager blanc, arrêtée par la police, elle a été condamnée à une amende de $15 et elle a fait appel de ce jugement scandaleux et injuste. Elle a été soutenue, on va dire, par un jeune pasteur de 26 ans, Martin Luther King, et grâce à leur action de boycott de cette compagnie de bus, ils ont obtenu
par la Cour suprême des États-Unis la suppression des lois ségrégationnistes dans les bus. Rosa Parks, dont 17 écoles françaises portent le nom aujourd'hui, a disparu en 2005. Et pendant que Pascal Obispo travaillait sur son 6e album studio en France, avec son complice Lionel Florence, il a alors créé la chanson Rosa.
J'avais rien demandé là, Rosa, mais c'est tombé sur toi ce jour-là. Tu as fait le premier pas, et y a eu Mandela après toi. J'avais rien demandé là, Rosa, mais c'est tombé sur toi ce jour-là. Tu as fait couvrir la voie.
Pascal Obispo, Fabien.
Chef-d'œuvre, hein.
Ouais. Vous évoquiez Martin Luther King à l'instant, qui je crois aimait beaucoup une chanson particulière du Gaufret. Hein.
C'est vrai Thierry, le titre s'intitule « Les crayons de couleur », une chanson contre le racisme, écrite par Hugues Gaufret et Pierre Delanoë en mars 1966, et qui s'est retrouvée en tête du hit parade de « Salut les copains » et d'Europe 1.
Ouais.
Et dans cette chanson, Hugues Gaufret dénonce l'intolérance et le racisme. Il affirme alors en chanson que la couleur ne fait pas l'homme.
Un petit garçon est venu me voir tout à l'heure avec des crayons et du papier. Il m'a dit je veux dessiner un homme en couleur. Dis-moi comment le colorier. Je voudrais qu'il soit pareil que moi.
Alors Thierry, je dois vous préciser quand même que le 26 mars 1966, Hugues Gaufret a même eu l'occasion de chanter sa chanson devant Martin Luther King en personne, au Palais des Sports de Paris, à l'occasion d'une soirée contre le racisme organisée par Harry Belafonte. Alors ce soir-là, le célèbre pasteur américain confiera au chanteur qu'il adore sa chanson et qu'il la fredonne régulièrement.
Superbe. Alors évidemment, Fabien, au cœur des années 80, hein, les années Touche pas à mon pote, les chansons contre le racisme se sont multipliées.
Oh là, effectivement, Thierry, dans la décennie 80, les chansons contre le racisme sont très nombreuses. En 1985, Jean-Jacques Goldman a l'idée justement d'enregistrer une chanson en duo avec son ami et guitariste Michael Jones. Et cette chanson s'intitule « Je te donne » et évoque la force et la richesse des différences.
Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
Autre alors, artiste,
alors,
Fabien.
Jean-Jacques.
Oui,
Jean-Jacques qui s'est toujours battu contre les extrémistes, d'ailleurs. Il l'a écrite en réaction à l'important score du Front National aux élections européennes qui venaient de se dérouler à l'époque. L'idée de confier à Michael Jones le chant et l'écriture des couplets en anglais était une façon pour Jean-Jacques d'accentuer encore un peu plus son message d'universalité et d'amitié, malgré la barrière des langages. « Je te donne » sort et se classe aux premières places du top 50 d'Europe 1 en décembre 1985. Aujourd'hui encore, cette chanson sur la tolérance est apprise dans les écoles aux nouvelles générations.
Et j'étais fan. Artiste Fabien qui s'est impliqué dans la lutte contre le racisme, c'est Maxime Le Forestier.
Absolument Thierry, en 1987 avec Né quelque part, Maxime Le Forestier fait un énorme retour sur le devant de la scène. L'idée en tout cas de cette chanson est née suite aux lois Pasqua, car le 9 septembre 1986, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, fait adopter une loi sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France qui prévoit notamment la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière. Et cette nouvelle loi fait vivement réagir Maxime Le Forestier, qui a toujours été un fervent humaniste, défenseur des droits de l'homme. Et un jour, alors que Maxime accompagne son fils Philippe, âgé alors de 5 ans, à l'école maternelle de la rue Cambon à Paris, il discute de son écœurement face à la nouvelle loi sur l'immigration, avec le directeur de l'établissement scolaire où cohabitent des enfants de différentes origines. Alors, suite à cette discussion, sur le chemin du retour, en longeant le jardin des Tuileries, le chanteur se pose une question. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Et c'est cette interrogation qui va être le point de départ, Thierry, de la nouvelle chanson de Maxime Le Forestier.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher.
Maxime Le Forestier et puis Fabien, en matière de lutte contre le racisme, impossible, impossible de ne pas évoquer, bien sûr, Daniel Balavoine.
Eh oui, Thierry, en 1985, il enregistre L'Aziza, une chanson avec laquelle Daniel Balavoine veut interpeller, à sa manière, le grand public sur la nécessité d'aimer les gens pour leurs différences. Un sujet brûlant en ce milieu des années 80, où SOS Racisme mobilise l'opinion publique sur ce problème de société. Le 15 juin 1985, Daniel participe d'ailleurs à la grande fête organisée par ce mouvement, Place de la Concorde à Paris.
Et aujourd'hui encore, les jeunes générations abordent bien sûr le racisme en chanson.
Mais oui Thierry, le racisme est hélas toujours un problème d'actualité et les artistes continuent d'alerter en chanson. C'est le cas notamment de Zazie avec son titre « Tout le monde, il est beau » ou plus récemment d'Adjou avec « Dis-moi » ou Gims avec « Malheur, malheur ».
Gims, merci beaucoup Fabien Lecoeuf, c'était vraiment agréable de vous écouter avec beaucoup d'informations. Merci à vous d'avoir évoqué à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre les discriminations raciales, toutes ces chansons, ces artistes qui, à leur manière, ont participé à la lutte contre le racisme et ont alerté sur les dangers de l'intolérance. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces anecdotes sur le podcast europe1.fr.
Ah oui, on se retrouve Thierry la semaine prochaine et je vous parlerai des chansons inspirées par le sida à l'occasion du SIDAction diffusé samedi prochain, le 27 mars, sur France 2.
Merci Fabien.
Europe Soir Weekend.
À suivre ce soir dans nos essentiels, ce livre choc de l'infirmière Nora Sahara. Elle raconte son quotidien à l'hôpital ou en maison de retraite. Si les gens savaient, écrit-elle, comment garder l'envie profonde de soigner, de sauver l'autre dans ces conditions. Rencontre authentique dans 2 minutes sur Europe.
Europe Soir Weekend, les essentiels. Thierry Dagiral.
Et notre essentiel ce soir est depuis toujours en première ligne, mais avec plus de médiatisation depuis le début de la pandémie, bien sûr. Nora Sahara a été infirmière pendant 15 ans. Elle publie Hôpital, si les gens savaient, chez Robert Laffont. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Si les gens savaient, la phrase que vous avez probablement le plus entendue durant vos 15 ans de métier, y compris il y a bien sûr un an, lorsque la France est confinée et qu'on traverse tous la première vague terrassante.
Exactement. C'est la phrase que toutes les soignantes ont dit plus d'une fois pendant leur carrière.
Ouais.
Et c'est cette phrase qu'on se répète et qui reflète un peu l'envers du décor de nos hôpitaux, de nos cliniques et
bien
de notre système de soins.
Et l'envers du décor, c'est aussi cette colère, c'est cette détresse de ce métier trop mal reconnu. On va en parler. Mais d'abord, entre infirmière et lanceuse d'alerte, il faut choisir. Vous avez donc abandonné ce métier.
Exactement. Pourquoi? À contre-cœur.
Ouais.
Écoutez,
j'imagine.
Moi, j'ai fait partie des soignants qui ont été contaminés pendant la première vague. Et donc, ça a été compliqué, en fait, ce qui s'est passé après. C'est que j'ai été dans une direction qui a nié ma contamination. Et ça, c'est arrivé à des milliers de soignantes. Et puis, par la suite, j'ai fait face tout simplement à un burn-out, à la deuxième vague. J'ai pas pu faire mon travail correctement. J'étais un danger pour moi, mais aussi pour les patients. Et donc, j'ai pris la décision d'arrêter malgré moi.
Parce que malgré vous, vous dites, ça veut dire que si ça n'avait pas été le cas, ça aurait pu être le système qui vous repoussait de toute façon.
Exactement.
Pour ne pas parler.
Exactement. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les soignantes sont épuisées. Il y a celles qui ont abandonné avant la crise du Covid, c'est l'enquête que j'ai menée d'ailleurs, beaucoup de soignantes qui ont fait des reconversions, des infirmières, des aides-soignantes, des agents hospitaliers. Mmh. Il y a celles qui, à la première vague, ont subi cette première vague de plein fouet et qui sont retrouvées en fait au front, sans armes, sans rien, sans protection. Et donc, elles ont arrêté. Et il y a toutes celles comme moi, les 10% de soignantes qui ont fait face à un stress post-traumatique, un burn-out à la deuxième vague. Et puis aujourd'hui, sur le terrain, il y a toutes celles qui tiennent, qui gardent espoir, mais qui me disent au quotidien, parce que je suis toujours en contact avec beaucoup de soignantes, et qui me disent, on tient, mais jusqu'à quand ?
Pourtant, il y a eu le Ségur de la Santé. Pourtant, il y a eu les applaudissements pendant des mois et des mois, tous les soirs à 20h. Pourtant, ça n'a pas suffi.
Non. Les applaudissements, comme me disent toutes les soignantes, et comme moi, je l'ai vécu, hein, vous savez, ça faisait chaud au cœur d'avoir toute la population
bien
derrière
sûr,
nous. On s'est senti moins seul, pour une fois. parce que toutes ces années en fait de restrictions, de manque de moyens, ben on s'est souvent senti seul et pas écouté. Et en fait, ce mépris, ce manque de reconnaissance, aujourd'hui, il est encore plus flagrant parce que un an après le début de la crise, qui a été un révélateur, on pensait que les choses allaient changer. Et en fait, sur le terrain, ça ne change pas. Il y a toujours pas assez de moyens, pas d'effectifs, et on travaille toujours dans des conditions dramatiques.
Vous dites quoi, un an après, alors qu'on vit cette troisième vague, vous dites quoi au gouvernement? Vous dites quoi à l'exécutif? Vous dites quoi au gouvernant, d'ailleurs?
Écoutez, moi, je dis que toutes ces années, on n'a pas mis au cœur de la société l'hôpital, la santé.
Il faudra que ça change.
Il faut que ça change. Nous, soignants, qu'avec la première vague, ça allait arriver et qu'on allait enfin se rendre compte que c'est très important d'injecter de l'argent aussi dans nos hôpitaux, notre système de soins, et que la société, une société dans un système de soins fort, ça ne tient pas aujourd'hui, on le voit. Mais aujourd'hui, il y a eu le Ségur, et le Ségur, ce n'est pas suffisant. Parce que sur le terrain, c'est 6 semaines de négociations pour rebâtir un système de soins. Et puis, on a oublié plein d'acteurs, le médico-sociaux, les infirmières libérales, etc. Et on ne peut pas, en fait, rebâtir un système de soins et régler tous les problèmes du quotidien en 6 semaines. Donc, il faudrait vraiment comme je le dis, il faut un Ségur 2. C'est ce que les soignants demandent. Parce que ce n'est pas suffisant.
Nora Sahara, il faut donner des chiffres. Hein, 90 000 étudiantes, étudiants, infirmières, infirmiers, 26 000 diplômés chaque année. Quand une jeune fille vient vous voir, fascinée par votre métier, vous lui dites quoi? C'est un métier de vocation, vous lui dites quoi?
Écoutez, moi j'en ai rencontré durant l'enquête des étudiants.
J'imagine.
J'ai échangé avec eux et je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne sont même pas encore sur le terrain, qu'ils sont déjà, comme ils me disent, il y a une désillusion. Dès les premiers stages, ils se disent « Mais en fait, moi, je demande juste à soigner, à aider les gens. » Et puis, je me rends compte sur le terrain qu'il n'y a rien, en fait. Je n'ai pas les moyens de faire mon travail.
On est seul.
Et souvent, c'est ce que j'explique, c'est souvent ce qu'ils me disent, c'est qu'en fait, on remplace les effectifs manquants. Et ce n'est pas normal aujourd'hui, un étudiant qui doit être formé, que ce soit infirmier ou aide-soignant, qui n'a pas encore toutes les armes pour faire face au métier, parce que le métier, c'est la maladie et la mort aussi. Ouais. Et en fait, on l'envoie tout de suite au front et on lui dit, voilà, c'est ce qui va t'attendre.
Et vous le dites d'ailleurs, hein, Nora, dans votre livre, on reste infirmière 7 ans en moyenne, et puis on décide de faire autre chose parce qu'on ne peut plus. Vous aviez commencé parallèlement des études de journaliste, c'est ça?
Au bout de 7 ans. Le hasard fait les choses au bout de 7 ans, mais je n'ai jamais arrêté le métier d'infirmière. Ouais. J'étais toujours infirmière... la nuit et journaliste le jour. Et franchement, je ne pensais pas qu'un jour j'arrêterais le métier. Je me suis toujours dit que je ferais les deux métiers. Alors, je lève le pied en tant qu'infirmière quand je le peux, parce que c'est usant. Mais c'est deux passions, en fait. Et aujourd'hui, je suis obligée de choisir. Et c'est ça qui est compliqué. Alors moi, j'ai espoir. Hein. J'espère aussi que tous ces témoignages vont faire bouger les choses et qu'on va se dire, toutes ces infirmières qui aujourd'hui n'exercent plus, elles ne le font pas parce qu'elles ont envie. Elles se sont dit, oh, c'est bon, je fais autre chose. Elles aimeraient revenir. Donc c'est elles qu'il faut. Et toutes celles qui sont sur le terrain, qui comptent partir, il faut savoir les garder.
Ce métier, cette vocation, elle n'est pas venue par hasard chez vous, Nora?
Non.
À la base, il y a un accident.
Exactement.
Vous êtes témoin d'un accident.
Moi, je devais être avocate. Hein. Je faisais des études de droit. J'étais à la fac de droit. Et j'ai une de mes meilleures amies qui est aide-soignante. Et un jour, elle est venue me chercher à la fac. Et sur le retour, il y a eu un accident de moto. Un jeune homme qui était à terre, en sang. Mon amie a essayé du mieux possible de le réanimer. Elle a malheureusement pas réussi, on est arrivé trop tard. Et moi, j'étais là derrière, tétanisée, j'avais l'impression que je ne servais à rien. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais faire un métier pour aider les autres. Et mon amie me disait toujours, je te verrai bien infirmière. Et je suis rentrée très peu de temps après à l'école d'infirmière.
Nora Sahara, le quotidien, vous l'expliquez bien dans votre livre, il le broie. Vous l'avez dit, il n'y a pas assez de personnel, vous parlez de l'hôpital. Mais en ville, c'est finalement la même chose. Hein, des infirmières qui ont 35-40 patients par jour. C'est trop, c'est bien trop.
C'est énorme. Vous savez, les infirmières libérales, on n'en parle pas beaucoup, mais parfois, c'est le seul lien avec l'hôpital. Vous savez, dans les déserts médicaux, on parle beaucoup des déserts médicaux, du manque de médecins. Mais qui, en fait, remplace ces médecins sur le terrain? C'est ces infirmières qui sont au quotidien, qui font plus qu'elles devraient faire. Parce que beaucoup d'infirmières, ce n'est pas juste faire la piqûre, le pansement et au revoir. Elles sont là, elles sont un soutien psychologique pour
les gens.
Et puis, moi, je connais beaucoup d'infirmières qui travaillent dans des petits villages et qui font les courses aux gens, qui les aident à remplir leurs papiers. Elles sont tellement importantes, mais on ne les entend pas, on ne les voit pas. Et c'est ça, en fait, qui dérange aujourd'hui.
Le gouvernement avait promis une aide psychologique, justement, auprès de ses soignants, auprès de ses infirmières. C'est important qu'il y ait un soutien psychologique de ses soignants. des cellules où on peut parler, évoquer cette pandémie?
Alors, en effet, le gouvernement l'a promis. Alors, moi, personnellement, de toutes les infirmières avec qui j'échange tous les jours, aucune ne m'a dit qu'elle avait de soutien psychologique. Ensuite, ça a été fait, je pense, de manière vraiment dans certains hôpitaux, pas dans la majorité. En 15 ans d'expérience, moi, je n'ai jamais eu de soutien psychologique. Pourtant, j'ai travaillé en soins palliatifs, en cancéro, en psychiatrie. Et c'est pas juste faire un soutien psychologique qui va régler les choses, en fait. Si on donne les moyens à ces soignants de faire leur métier correctement, comme elles le souhaitent, elles souhaitent quoi? Elles souhaitent juste pouvoir soigner dignement, prendre soin des gens avec humanité. Et en fait, soutien psychologique, c'est bien dans ces temps en pandémie. Et je pense que beaucoup de gens aussi dans le pays ont besoin de soutien psychologique. Mais c'est pas ça qui va régler le problème.
Bien sûr. Et on a besoin de vous. Vraiment. Très beau témoignage. Je rappelle votre livre « Hôpital, si les gens savaient ». C'est aux éditions Robert Laffont. Merci infiniment à vous, Nora Sarah.
Merci à vous.
Merci beaucoup. C'est la fin de ce 18-20 week-end. La semaine prochaine, vous retrouverez Wendy Bouchard en pleine forme. Merci à Naïma Bencheman à la préparation, Rémi Duprat à la réalisation. Et dans un instant, votre soirée foot, bien sûr, sur Europe 1 avec Lionel Rousseau.